nous parler de ses films Yule et Le Serpent et La Nuit des Sacs Plastiques, pour lesquels on a reçu notamment le César du meilleur court-métrage d'animation. Mais surtout, deux films dont l'intrigue se passe à Marseille, ce qui est vraiment important parce que c'est aussi le principe de notre émission. L'émission est disponible aussi en podcast. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission Témoin Oculaire sur notre page Facebook, témoinoculaire.fm, témoin oculaire au pluriel bien évidemment. Depuis tout ce temps, nous avons tous vécu confinés, déconfinés, gantés, masqués, imbibés de gel hydroalcoolisé. Les attestations de sortie, les mesures sanitaires, on va pas faire toute la liste non plus, mais tout de même, la vie, c'est plus vraiment pareil aujourd'hui depuis la dernière émission.
Ah ouais, non, ça a bien changé.
Alors, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup manqué de pas aller au cinéma ces derniers temps.
Il faut dire qu'il y a pas beaucoup de films qui sortent. Donc on est un peu enfermé chez nous avec Netflix, mais bon.
Et justement, on est enfermé avec Netflix, et moi, en tout cas, les plateformes de streaming, je sais pas pour vous, mais je trouve que ça donne accès à vraiment un gros catalogue de films qu'on a déjà vu 20 fois, généralement. Moi, j'ai toujours du mal à sélectionner, en fait. C'est une espèce de liste infinie, sélectionnée par des algorithmes.
Ouais, non, c'est sûr. Dès que t'as aimé un truc qui a un sujet qui est proche de ce que tu viens de voir, il va te donner un autre truc qui est proche, mais qui va pas forcément te plaire. Donc c'est un peu le principe, problème de l'algorithme, on va dire.
Il y a un souci d'algorithme. Enfin, on rentre dans le vif du sujet direct, mais il y a un souci sur les algorithmes. Au niveau de la production des films, moi je trouve que les productions Netflix, les productions Amazon Prime, n'ont pas trop l'air d'être faites par des artistes, mais plutôt par des algorithmes recentrer sur qu'est-ce que les gens ont envie de voir, qu'est-ce qui va le mieux marcher. Et au final, il y a plein de séries, de films où le sujet est hyper emballant. Et quand tu le regardes, je te dis, tout est bien, mais il manque le supplément d'âme. Quoi.
Il manque l'âme, c'est
fabriqué par un algorithme.
Mais en plus, tu as absolument raison, parce qu'effectivement, il y a des projets en fait, de films, de séries, qui sont aujourd'hui en fait, développés par rapport à justement des notations en fait, algorithmiques.
Oui.
Et qui proposent en fait, ce que potentiellement l'audience en fait, souhaiterait voir en salle pour pouvoir justement répondre en fait. À d'attente potentielle, en tout cas, de l'intelligence artificielle.
Et puis surtout, dès qu'il y a un manque d'audience, ils suppriment une série, quoi. Enfin, tu peux avoir saison 1, puis pas de saison 2.
Serais quand même un peu indulgent avec le fait que c'est des plateformes qui débutent. C'est-à-dire que je pense qu'à HBO, quand ils ont débuté, ils ne produisaient pas des trucs super. Et Netflix, petit à petit, s'améliore. Ils ont produit quelques trucs. On a vu quelques trucs sympas pendant le confinement, quand même. Ça n'arrive pas au niveau de ce que fait HBO. Mais voilà. Je leur laisse le bénéfice du doute et de me dire que c'est des plateformes qui ont que quelques années et petit à petit ils vont s'améliorer, ils vont pouvoir sortir quelques trucs sympas. Là, par exemple, je t'en parlais tout à l'heure, il y a le film de Charlie Kaufman qui est produit par Netflix, qui est quand même un truc assez pointu.
C'est barré, ouais.
Non, scénariste de Spike Jones sur Adaptation et sur Dans la peau de John Malkovich, qui a la réalisation, qui fait des films assez cérébraux. Voilà, il y a le courage de Netflix d'avoir produit un film comme ça. Le film,
surtout que Netflix met les moyens et arrive à pouvoir récupérer, en fait, à la différence des studios hollywoodiens, de pouvoir récupérer des grands réalisateurs.
Oui, voilà, Netflix a pour lui d'aller draguer les grands noms avec des projets clés en main et sur lesquels ils seront maîtres à bord en plus. C'est vraiment la final cut et tout.
C'est un système de production qui est basé sur le prépaiement, à la différence du cinéma. C'est-à-dire que sur Netflix, les gens payent un abonnement avant de voir les films.
Ouais.
Donc les films sont déjà payés. Alors que pour un studio hollywoodien, il faut que le film se vende, quoi.
Il faut que ça pleuse pour que ça rapporte de l'argent.
Il faut que les gens payent pour venir le voir. Sur Netflix, a, je crois, 80 millions d'abonnés dans le monde.
Seulement.
80 millions.
C'est pas mal. Hein.
80 millions à 10 euros l'abonnement, ça fait qu'ils rentrent 800 millions d'euros. Donc ça fait de l'argent pour financer des films quand même.
À 10 euros, c'est le petit abonnement, mais t'as l'abonnement à 12 euros aussi en HD pour les cinéphiles.
Sur Netflix, je pense que si Netflix nous écoute.
Voilà. Mettez-nous la Ligue 1 et la Ligue des Champions Netflix, on vous adorera, on s'abonne, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est pas le propos, on n'a pas fait cette émission, en tout cas, ce sixième numéro n'est pas consacré aux plateformes de streaming. Alors, au sommaire, ce soir, on va avoir Tenet avec Guilin qui va nous éclairer justement sur le dernier film de Nolan où finalement on a tous rien compris au film.
Ouais, mais vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas vraiment grand chose à comprendre. C'est basique, c'est simple.
Ah ouais, c'est basique. Bon, ouais. Tu vas nous expliquer tout ça.
Mais on remercie quand même le studio qui distribue Nolan, qui distribue ce Tenet, de l'avoir sorti.
Oui, j'en parle d'ailleurs dans ma chronique.
Avoir pris le risque de sortir dans cette période. Donc ça fait quand même plaisir de pouvoir vous voir des films. C'était une des choses les plus intéressantes à voir des peut-être 3 ou 4 derniers mois.
C'est Warner, quoi. Ils ont un peu des Corones, on va dire.
Ouais. Ah bah c'est vrai que c'est le c'est film, en tout cas, qui a fait, c'est le film qui a servi de produit d'appel pour ramener les gens en fait dans les salles et nous permettre de enfin en tout cas de ramener un public au cinéma. Alors pour la petite histoire, moi j'y suis allé grâce à notre ami Abdoul qui n'est pas là ce soir, mais on est allé ensemble. Alors c'est pas pour faire de la publicité, mais au cinéma en fait de la Joliette, c'était une expérience incroyable,
tu
vraiment.
Touches combien pour,
de chez Tchut-tchut, pas de marque.
Non, c'était vraiment, en tout cas, je trouvais que Tenet se prêtait bien, si vous voulez, à l'expérience de salle que proposait en tout cas ce cinéma avec des sièges vibrants, des trucs comme ça.
Ouais,
je vais pas parler des tarifs des salles, des places, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, j'étais plutôt content de retrouver le cinéma et quitte à avoir en fait un film à grand spectacle. En tout cas, c'était les bonnes conditions. C'était vraiment, ça faisait vraiment plaisir. On va continuer donc après Tenet sur un sujet donc qui est consacré à Ron Cobb. C'est un hommage en fait aux créateurs de mondes et de monstres venus de galaxies très très lointaines, qui a travaillé notamment avec Spielberg, qui a travaillé en tout cas sur les 30 dernières années dans le cinéma américain, qui a créé énormément de choses. On en parlera un peu plus profondément après. On va suivre ensuite avec The Hunt et Daniel qui va nous parler de ce film d'action polémique de Craig Zobel.
Ouais, bah écoutez, on en parlera tout à l'heure. En pleine élection américaine, je pense que c'est un film qui a fait parler aux États-Unis pour de bonnes, de mauvaises raisons. Est-ce que même on a eu raison d'en parler autant ? Je vous en parlerai, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure.
Et on conclura l'émission sur Un pays qui se tient sage de David Dufresne, le documentaire du moment sur les violences policières en France et qui a créé l'événement en salle. C'était un truc assez inattendu pour un documentaire, mais il a fait énormément d'entrées et beaucoup de gens sont allés le voir. Et en tout cas, c'est très mérité. Il mérite vraiment ce succès-là parce que c'est un film vraiment, en tout cas, je pense, important.
Oui, il est vraiment important et intéressant.
Par rapport à une étude sociologique et qui traite pas mal de notre époque et bien évidemment de ce qui nous attend dès ce soir minuit.
le film militant de la rentrée qui nous rappelle quand même que... on a vécu au rythme des Gilets jaunes, on a complètement oublié, c'est comme si ça s'était passé il y a 1000 ans, mais pendant 2 ans, on a vécu au rythme des Gilets jaunes.
Ouais. Et t'as choisi la bonnette jaune en plus.
Il n'y a pas de hasard. C'est militantisme.
Il
n'y
a pas de hasard. Écoutez, on va tout de suite enchaîner avec la chronique de Guilin sur Tenet. On va passer un petit extrait avant. Tenet.
Une de ces balles est comme nous et voyage à travers le temps, en marche avant. L'autre va en marche arrière. Vous pouvez les différencier ? Et maintenant ?
Pourquoi ça fait si bizarre ?
Vous ne tirez pas la balle. Vous la recevez.
Oh ! Eh bien, c'est la suite de la chronique. Donc, Tenet. Alors, l'histoire de Tenet, elle est curieusement liée au confinement. Pas du tout, parce qu'il y a un rapport avec le confinement direct. Hein. Non, ça, c'est plutôt le film Vivarium, que je vous conseille d'ailleurs sur Netflix. Non, tout d'abord, parce que c'est le premier blockbuster qui est sorti post-confinement au cinéma. Et même le seul, et qui avait du coup la très lourde tâche de ramener les spectateurs en salle. Alors, est-ce qu'il y a réussi ? Je ne vous laisse pas plus longtemps dans un suspense hitchcockien pour vous révéler que, tenez-vous bien, oui. En rapportant près de 48 millions aux USA, dont 20 millions dans son week-end d'ouverture, et 275 millions à l'international, ce qui lui fait un total de 323 millions sur le box-office mondial, Nolan a réussi le lourd pari qu'il s'était lui-même imposé, c'est-à-dire ramener le public dans les salles. Semi-exploit en revanche, car Tenet devra rapporter aux alentours de 450 millions pour rentabiliser réellement son budget de 200 millions et à peu près l'équivalent hors promo, donc à peu près l'équivalent publicité aussi. Quoi. Me direz-vous, est-ce que cet exploit a suffi à faire cartonner le film ? Eh bien, pas tout à fait. En fait, est-ce qu'il a suffi à défriloliser ? Oui, j'invente des mots. J'avais pas le mot pour dire enlever la frilosité des studios, de faire des sorties en salle, donc j'ai inventé défriloliser. Donc de défriloliser les studios, pas vraiment non plus, parce que comme en témoignent les sorties repoussées de quasiment tous les blockbusters et dont Daniel va nous parler également, parfois jusqu'à avril 2002 pour le nouveau Batman de Matt Reeves.
2022 je pense.
2022 oui, j'ai écrit 2022. Ou les films qui vont, ou les films qui vont sortir directement sur Disney+, donc par exemple notamment Mulan. Alors, est-ce qu'au moins c'est un bon film ? Eh bien, puisque vous y tenez, je vais vous expliquer pourquoi Tenet, peu importe ce qu'on peut penser du film, est très clairement un film de Nolan. Et encore plus clairement, un de ses plus personnels. Par contre, là, c'est à double tranchant. Alors, on va un peu recontextualiser rapidement Nolan pour les rares qui ne le connaîtraient pas. Donc, c'est un réalisateur anglais et pas du tout américain, pour ceux qui le penseraient. Et donc, il a débuté le cinéma avec un premier court-métrage qui s'appelle Doodlebug et qui contient un peu en matrice tout le cinéma de Nolan, puisque c'est l'histoire d'un homme qui découvre une petite créature dans son appartement. Et bon, je ne vous révèle pas le twist, mais en gros, on retrouve l'idée de sa société de production Syncopae qui représente un labyrinthe. Donc, on retrouve déjà le côté tordu du bonhomme. Après ça, il fait Following the Suiveur, qui est, en français, Le Suiveur et Following, titre américain, qui est l'histoire d'un homme qui pénètre chez les gens, et un gars le voit faire ça, et va le suivre, et va se retrouver évidemment dans une histoire un peu rocambolesque. Après ça viendra le grand film qui a assis Nolan au rang de dieu du cinéma, peut-être un peu vite, mais ça c'est mon avis, Memento. Voilà. Non, mais Memento est très bon. Mais je veux dire, ça l'a assis un peu vite pour ce qui a suivi.
Moi, je trouve que c'est un super film aussi. Je pense pas que ça l'a. Je pense que c'est un film qui est resté confidentiel jusqu'à ce qu'il fasse ses films suivants.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est-à-dire qu'on l'a ressorti après, on en a reparlé après quand il a eu un énorme succès.
Parce qu'il
succès.
A fait Memento, après il a fait Insomnia, où il y avait confidentiel.
Il y avait un petit buzz, ouais, mais dans le milieu cinéphile.
Mais milieu
pas cinéphile, plus loin.
Petit buzz. Et après, il est arrivé vraiment à l'accessible au studio hollywoodien, quoi. On connaît le goût donc de Nolan pour l'artifice, la métaphore du cinéma, complètement filé dans le prestige d'ailleurs, puisque le film ne parle que de cinéma, du montage jusqu'au scénario.
Ouais. Son meilleur film.
La thématique du temps, que ce soit le temps comme fonction narrative, donc là, pareil, on ne peut pas s'empêcher de penser à Memento, le film donc, qui a révélé Nolan et achevé de faire de Guy Pearce un excellent acteur, ce qu'il était déjà, mais ça l'a monté un peu plus haut. Et aussi Dunkerque, qui, qu'on l'apprécie ou non, jouait un peu sur les temporalités entremêlées, pour perdre le spectateur et lui faire entrevoir la manière dont chaque personnage était le jouet du destin, plus ou moins. Ou le temps comme vecteur de voyage, bon, littéralement avec Interstellar, hein, qui en faisait quasiment le centre du film et la quête de Murphy. Inception l'utilisait également, mais juste pour signifier la perte des rêves des personnages dans les limbes où ils se retrouvent en vieillard. Donc que ce soit Cobb et Mal ou Saito.
Oui, non, et dans Inception aussi, si mon souvenir est bon, j'ai vu il y a très longtemps, mais il y a aussi l'idée que quand on est dans un rêve, le temps passe pas à la même vitesse, non ? À chaque fois, plus on rentre dans un rêve qui est dans un rêve qui est dans un rêve.
Oui, c'est vrai qu'il y avait aussi la distorsion du temps, tout à fait. Mais là, c'était plus comme vecteur d'émotion, pour une fois, et pas
pas de suspense, ou en tout cas de.
Voilà, pas de suspense, en tout cas de narration, quoi.
Ouais, de narration.
Et tiens, Inception, encore un film soi-disant incompréhensible, mais bon, c'est pas le sujet de la chronique. Tenet à son tour, et malgré le fait que Nolan communiquait sur le film en disant « Ah non, il n'y a pas question de voyage dans le temps, absolument pas !» utilise, spoiler alerte, le voyage dans le temps, ainsi qu'une autre marotte, de Nolan, le principe de la boucle. Donc la boucle qu'on retrouve dans Le Prestige, qu'on retrouve également dans Doodlebug, justement, son court-métrage. Que ce soit Inception, qui en réalité présente plusieurs boucles, voir des théories très intéressantes qui circulent sur le net. Ça, pareil, je vous donnerai un petit lien en fin de chronique. Ou Le Prestige, qui utilise lui aussi littéralement, mais de façon narrative, le principe de la boucle. Car qu'est-ce qu'un clone dans le film, si ce n'est une boucle ? Pardon pour le spoil, la moitié du Prestige. Hein, mais bon, il y a prescription, je pense.
Ouais.
De toute façon, il vous reste l'autre moitié du film, qui est aussi très chouette. En vrai, c'est ça. Non, je ne dis pas. Tenet va également utiliser la figure de la boucle à son tour, ou Ouroboros, c'est-à-dire le serpent qui se mord la queue. Et quel serpent ! Car dans Tenet, le protagoniste, qui n'a pas de nom d'ailleurs, on soulignera l'originalité du propos, va devoir littéralement découvrir un avenir qu'il a lui-même tracé dans un futur proche, mais dont il ignore tout. Tout en sachant que tout ce qu'il ignore a déjà eu lieu, sinon il n'irait pas à la poursuite de ce qu'il recherche.
Déjà, je ne comprends pas.
Quelqu'un a un doliprane ? Non, je plaisante. Tenet n'est pas si compliqué à comprendre. Je vois beaucoup de gens sortir de la salle et n'avoir rien compris au film. Mais même Nolan ne doit pas avoir tout compris. La plus grande preuve est que dans le film, il fait dire par le personnage de la scientifique, donc le vecteur premier de la science et du rationalisme, et qui pourrait par essence le représenter, « Ne cherchez pas à comprendre, juste ressentez l'émotion. » Malheureusement, comme Nolan n'a écrit dans Tenet quasiment que des personnages fonctions, ressentir est beaucoup plus difficile. que dans Interstellar, par exemple. Alors, bien sûr, on peut se raccrocher un peu émotionnellement à Kat et à l'amour d'une mère qui ferait tout pour sauver son fils, même jusqu'à y renoncer. Mais Nolan étant beaucoup plus cérébral que les Wachowski, hein, par exemple, ou Spielberg, au hasard, on reste un peu en dehors du film émotionnel qu'il pense nous offrir. La faute en revient un peu à Chris. J'appelle Chris, hein. On est un peu intime. Christopher, beaucoup à l'absence de son petit frère, Jonathan Nolan, qui est un peu moins connu du grand public, mais qui est par exemple le showrunner de Westworld. En effet, on retrouve Jonah, comme il se surnomme lui-même. Oui, j'aime bien les petits surnoms. À la co-scénarisation de Memento, Le Prestige et d'Interstellar, soit les trois films les plus émotionnels de Nolan. Quatre même, si on compte sa participation à TDKR pour les intimes ou The Dark Knight Rises pour les autres. Bon, coïncidence, moi je ne pense pas. Privé de la partie émotionnelle de son écriture, donc son frère, Christopher Nolan enchaîne les morceaux de bravoure. Mais à l'image de son accident d'avion, oui, parce que je vous apprends un truc, un crash, c'est seulement en vol. Oui, je viens de l'apprendre aussi en écrivant la chronique. Quand c'est au sol, on n'appelle pas ça un crash. Bref, voilà. Le film est spectaculairement creux. C'est-à-dire qu'à côté d'un Tony Scott qui interrogeait le principe du voyage dans le temps, tout en proposant une lecture politique en hommage aux victimes de l'ouragan Katrina, dans le remarquable Déjà Vu, dont je vous conseille la revision, surtout face à Tenet, Nolan ne fait que proposer un méchant un peu unilatéral, en fait, dans la lignée des James Bond, dont il est très fan, hein. Par ailleurs, il a failli en réaliser un. Dont les motivations donc, sont assez floues, ne reposent plus ou moins que sur un complexe de Dieu et une vision écologique pour le moins primaire, on va dire. Puisque ce dernier pense que pour aider les gens du futur à sauver le monde, des gens qui ont merdé dans le passé, c'est-à-dire nous, messieurs, hein, ils doivent supprimer l'univers de ces mêmes gens du passé. Mais bon, si on se réfère à Terminator, par exemple, hein, champion du film du voyage dans le temps, ou à Retour vers le futur, ou même à l'armée des 12 singes, auquel Nolan fait plusieurs appels du pied pas toujours très subtils, il n'est même pas sûr que ce changement change de façon concrète la réalité des gens du futur. Dans le film, le méchant possède le pouvoir, présenté comme scientifique, d'inverser les objets, leur entropie. À vos souhaits. L'idée étant d'inverser une bombe pour déclencher une apocalypse grâce à un algorithme. Le protagoniste court pendant tout le film après son destin pour comprendre en fin de film, oui pardon je spoil, qu'il avait déjà toutes les clés en main pour l'accomplir et ce sans le savoir. Un petit mot aussi sur son acolyte que certaines théories présenteraient comme le fils de Kate, mais c'est littéralement impossible. Car admettons que Neil a été inversé pour revenir dans le temps et rencontrer le protagoniste. Il lui faudrait l'équivalent de 21 piscines olympiques remplies d'oxygène pour survivre pendant 15 ans avant de rencontrer le protagoniste.
C'est toi qui as fait le calcul ?
Non, pas du tout. Je pense que c'est la personne qui a écrit la vidéo dont je vais vous parler et qui a utilisé source mémorielle le backpack qu'ils ont dans le dos là, quand ils descendent en inversé.
Mmh, oui.
Comme base d'une heure, par exemple. Il a multiplié ça par 15 ans. Donc j'ai trouvé cet élément dans la vidéo d'un youtubeur du nom de Ex Materiae, et je vous conseille d'ailleurs sa page pour approfondir Tenet. Il aborde aussi plusieurs films pièges, comme Shutter Island d'ailleurs, où il y a une très belle théorie dessus. Vous apprendrez par exemple que dans le passé de Kate, il n'y a pas deux Kate, comme on a pu le croire dans le film, mais au moins cinq en même temps. Comptez, la Kate du début, la Kate qui s'inverse, la Kate qui se réinverse parce qu'elle s'est pris une balle, enfin, celle qui a été amenée par le méchant, celle qui se réinverse, celle qui est sur le bateau et celle du passé. Voilà, nous avons 5 Kate et 6 Neil. Alors, je ne vais peut-être pas arriver à faire les 6, mais il y a le Neil qui sauve la mise au protagoniste
au début.
À Moscou. Ouais. Voilà, c'est lui, puisqu'il y a le petit élément rouge, la petite cordelette rouge sur son sac à dos.
Ouais.
Le Neil donc avec qui il fait le casse dans l'avion, avec l'aide de l'avion, à l'aéroport. Voilà.
Ouais,
celui avec lequel il s'inverse pour aller dans l'équipe bleue, quand il s'inverse pour aller dans l'équipe rouge, il se réinverse pour les poursuivre en voiture pour les empêcher de rentrer dans l'aéroport.
Parce que le truc, c'est que dans l'aéroport.
Oui, dans l'aéroport, ils se réinversent une fois, mais ça compte pas parce que c'est dans le même.
Alors, pardon, ça compte pas.
Je croyais avoir compris le film en le voyant. Finalement, je le comprends moins maintenant.
À la fin, il les poursuit en voiture, là, pour les avertir que le tunnel est piégé. Donc, ça, c'est sa cinquième itération. Okay, ouais. Et sa sixième itération, c'est quand il se prend une balle pour sauver le protagoniste. Okay. En bas en bas de l'espèce de puits là, où il y a un mec qui lui tire dessus, qui tire sur le protagoniste. Le gars, quelqu'un se relève en inversé, et c'est encore Neil. Voilà, qui lui sauve, donc il sauve la vie du protagoniste et de Ives.
C'est la révélation de la fin, en fait.
Ives, c'est le gros, le gros marmoule, le marmule imposant qui les accompagne, qui est joué par Taylor Aaron Johnson, d'ailleurs.
Bah oui.
Méconnaissable depuis Kick-Ass, hein, pour le coup. Au final, est-ce qu'il faut avoir vu Tenet ? Eh bien, je dirais oui, parce que c'est quand même un très grand spectacle, le premier, bon, quasiment le seul, d'ailleurs, à venir, avant pas mal de temps. Là, j'ai bien envie de m'inverser, moi, pour retourner, je sais pas, dans les années 80 ou 90. Non, arrêtons le réac. Et la récente allocation de notre président n'est pas vraiment pour nous rassurer à ce sujet-là, d'ailleurs. Mais c'est aussi le Nolan le plus personnel, depuis bien longtemps, tout en étant malheureusement également son moins bien construit et structuré. L'absence de son frère se fait grandement sentir. Est-ce qu'on peut revoir le film ? Eh bien oui, perso, je l'ai vu deux fois pour pouvoir écrire ma chronique. Oui, parce que sinon, c'est un peu compliqué quand même. D'ailleurs, la première fois, j'ai trouvé le temps un peu long, sans m'ennuyer pour autant, et sans chercher vraiment à comprendre, et comme l'a dit la scientifique au début du film, moi on me dit un truc, je suis le chien de Pavlov, j'applique, ressens, j'ai ressenti. Et en revanche, lorsque la première inversion a lieu, donc quand ils rentrent dans le premier tourniquet, là par contre, ça a été le kiff total. Ah j'avoue, j'ai pas vu le temps passer, j'étais à fond, j'étais avec eux, et la deuxième fois, du coup, comme je connaissais toute l'histoire, je me suis attardé sur le début. Et du coup, j'ai aimé toute la projection à la même hauteur. Après, est-ce qu'un film doit être pensé pour être vu plusieurs fois ou non ? Ça pourra faire, je pense, le point de départ d'un débat pour une prochaine émission. Et ça, c'est très net. Voilà.
Bravo. Bravo, bravo Guilin, t'as bien bossé.
Merci.
C'est bien. Ça m'a pas forcément beaucoup éclairé en fait sur les intentions en fait de Nolan par rapport à cette histoire-là.
Ça, on peut en parler, faire un petit débat. Toi, tu l'as vu, Daniel l'a vu, on peut en parler. Ça, c'est
vrai que, enfin, moi, je reste quand même assez partagé, si vous voulez, sur ce film-là. De prime abord, enfin en tout cas je dirais que de manière générale j'aime bien le cinéma de Nolan, je trouve qu'il y a une proposition, il y a quand même quelque chose de frais en tout cas à chaque fois qu'il sort des films. Les derniers films qu'il a sortis depuis, Batman en fait, tout ce qu'il a pu faire avec DC Comics et tout ça, j'ai trouvé qu'à un moment donné ça perdait beaucoup en fait de son intérêt.
De Nolan, oui oui.
Donc oui, effectivement je te rejoins complètement sur l'idée en fait que le fait que son frère ne travaille pas forcément, enfin collabore pas sur les films qui ont suivi, effectivement on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu bancal, un peu boiteux dans le cinéma de Nolan.
Il y a un peu une idée pour moi aussi dans la rançon du succès, c'est-à-dire que le post-Batman, Nolan avant Batman, enfin comment dire, la trilogie Batman pour Nolan, c'est ce qui l'amène au rang de quasiment le
de Dieu, ouais, c'est, le ce cinéaste, c'est ce qui a assis son attendu, statut. Ouais, ouais.
Le plus attendu d'Hollywood, quoi. C'est-à-dire qu'on lui donne Batman, donc un thème très porteur, il fait des films qui cartonnent, et après ça, il n'a jamais retrouvé ce niveau. Enfin, peut-être qu'il a eu trop d'argent.
Regarde, rien que dans Tenet, j'en parlais de la scène de l'accident d'avion, il a voulu la faire en réel. Les mecs, ils sont allés chercher un vrai Boeing.
Ouais.
Ils ont payé ça, je sais plus, ouais, mais genre.
C'est vachement bien. Enfin, moi, je trouve ça vachement bien.
Genre 200 000
oui,
ou.
Oui, il crache un peu sur les CGI. Ouais.
Ou 200 000 ou 300 000 dollars, je sais pas, peut-être même plus. Et au final, il sert à quoi ce truc ? Il sert juste à faire à détourner l'attention. Parce que c'est ça, ça va détourner l'attention du mec qui leur fait visiter.
Ouais, oui, pour qu'ils puissent
déclencher l'alarme. Eux, ils se barrent parce qu'ils ont genre 10 secondes. Il dit alors, c'est 10 secondes, c'est ça ? Le mec, il s'enfuit en courant parce qu'il va mourir sinon. Et là il lance l'opération casse, quoi. Mais j'ai envie de dire, avec le même principe de crash ou de machin, McTiernan, il te fait un truc complètement dans l'histoire du propos. Alors que là, c'est juste un petit clin d'œil méta. Genre, regardez, je détourne l'attention du spectateur, tu vois.
Je veux dire, moi,
il aurait pu faire ça pour moins cher, quoi.
Toujours le même souci avec Nolan. Enfin, c'est pas un souci. Quand je vois ces films, il faut les voir en salle. Je les vois tous en salle.
Ouais, moi, pareil.
C'est une expérience. C'est un super blockbuster. C'est où il cérébralise le blockbuster. Après. Moi, c'est des films que je revois jamais une deuxième fois, même Interstellar.
Ah ouais.
Quand je sors de la salle, il m'en reste rien. Alors, c'est pas aussi con qu'un Fast and Furious, même si j'aime beaucoup voir un Fast and Furious.
Ah, la sévère,
mais
quand même.
Oui, il cérébralise.
T'es dur, non, non, mais t'es dur, là, je peux pas laisser dire ça.
Il y a un scénario, oui, à la différence de Fast and
Furious. Ah oui, bah oui, non, quand même.
Il y a un scénario. Mais
ces films n'apportent pas grand-chose de plus que ce que n'apporte un blockbuster, c'est-à-dire du pur plaisir. Alors oui, Fast and Furious, oui, il y a pas de scénario. Donc quand on est, moi, je suis un amoureux du scénario, c'est sûr que
la trilogie Nolan, la trilogie Batman, pardon, elle avait quand même pour elle d'interroger le sujet du terrorisme et des moyens d'y parvenir. Après, je pense que c'est plus des thématiques de Goyer, David S. Goyer, le scénariste en second, et de Jonathan Nolan aussi, pour le coup, qu'on retrouve un peu dans Westworld, d'ailleurs, cette thématique du terrorisme, que celle de Christopher, purement.
Il y a un truc, en fait, par rapport à, justement, la trilogie Batman qu'ont fait les frères Nolan. C'est une parenthèse, en fait, dans l'œuvre générale, en fait, de Christopher Nolan. C'est-à-dire que ce qu'il a fait par rapport à ces films qui sont des films de commande,
ouais.
Il n'y a pas cette dimension en fait d'auteur. Sauf que, si vous voulez, c'est dans ces films-là que la dimension en fait de l'auteur
est la plus
signifiante, en fait, est la plus représentée.
Bah, tout à fait, c'est-à-dire autant que ce soit le temps, que l'amour, que oui, oui.
Ouais, et c'est ça en fait qui est vraiment particulier. C'est-à-dire que dans cette parenthèse artistique-là, il n'a pas réussi, si vous voulez, j'ai l'impression, à pouvoir rebondir. Et ce n'est pas une question de moyens. Je pense qu'en fait, il a dû... Enfin, bon, après, j'aime pas avoir ce genre de discours-là de, si vous voulez, imaginer ce que le réalisateur aurait pu penser. Mais en tout cas, en tant que spectateur et cinéphile, je pense, si vous voulez, qu'il est difficile pour un artiste de pouvoir, à partir du moment où il y a un grand défi qui est justement de signer un contrat de 3 films, qui est Batman, qui est une franchise, je veux dire, monumentale, avec les pressions qu'on connaît au cinéma américain, de vouloir être à la hauteur, si vous voulez, des attentes du public et peut-être aussi du studio, de pas vouloir, en fait, se rater à un moment. Donc, d'injecter, en fait, tout ce qu'on peut injecter dedans. Et derrière, en fait, si vous voulez, de plus retrouver la même motivation, c'est-à-dire pour d'autres créations qui seraient en fait un espèce de parallèle à ce qu'il aurait déjà fait. Donc là, il part dans des trucs complètement scientifiques, en fait.
Quand il a eu les contraintes de Batman, finalement, il a pu le plus mettre.
Bah, il a eu une meilleure structure, en fait.
Mettre de l'âme.
Ouais, c'est ça.
Et quand il est en totale liberté pour pouvoir tourner tout ce qu'il veut.
Batman.
Non, c'est vrai. T'as raison quand tu dis ça, Daniel. C'est vrai que quand il est contraint. Il arrive à exprimer l'essence de son âme. Quand il est en roue libre, bah, il fait comme un gamin à qui tu donnes des jouets, tu dis vas-y, fais ce que tu veux.
On va déborder, mais la contrainte, c'est dans l'art, pour moi, c'est ce qui fait que.
C'est ce qui stimule la créativité.
Voilà,
Pourquoi les peintures étaient aussi belles? C'est parce que les mecs, ils avaient des commanditaires. Les commanditaires disaient moi, je veux tel tableau, et le gars, il avait une contrainte. Mais du coup, il était cadré, il ne pouvait pas forcément aller où il voulait, mais en même temps, il pouvait se permettre, dans cette contrainte-là, de réaliser quand même son art, de réaliser sa patte avec sa signature, mais avec après, tout ça, quoi.
Bon, bref, on va pas...
Voilà, mais je continue à le dire, même les Batman, franchement, est-ce que c'est des films que vous revoyez?
Moi, j'ai revu 2 fois Begin quand ils ont repassé, là, au cinéma, parce que maintenant, ils repassent les vieux films. Ils repassent les films qui ont moins de 10 ans au cinéma, là. Il y a eu plein de films, comme on n'a pas les blockbusters, ben, ils sont obligés de un peu combler. Et j'ai revu 2 fois le Dark Knight. Par contre, j'ai revu qu'une fois TDKR, parce que c'est celui que j'aime le moins, finalement.
Ouais, je sais pas. Moi, je reste...
Même s'il y a une très belle scène, et là, je pense que l'on doit à Jonathan, il y a une très belle scène de renoncement d'Alfred, qui se met à pleurer, qui dit devant la tombe de Thomas Wayne,
moi, j'aurais pu sauver. Pour être tout à fait honnête, et d'ailleurs, la première émission qu'on avait fait sur Témoin Oculaire était consacrée au Joker, et c'est un film que j'ai détesté. Je suis depuis
Joker,
ma tendre enfance, en tout cas,
je suis
un grand fan de Batman. J'aime toute l'histoire de Batman. Enfin, j'aime pas les super-héros, mais si je devais en choisir un, mon super-héros préféré, c'est Batman. Ouais, c'est pareil. Clairement lui. Et si vous voulez, en fait, le truc, c'est que dans les films en fait de Nolan sur cette trilogie là du Dark Knight, je trouve en fait, si vous voulez, que on comprend très bien, c'est-à-dire qu'il a respecté les premiers écrits en fait de l'histoire de Batman. Il y a tout un développement en fait du personnage de Batman, de Bruce Wayne. Il y a toute une histoire, si vous voulez, par rapport au Joker, c'est-à-dire qu'il y a toute une réécriture qui justement s'intègre dans un monde contemporain.
Mais c'est vrai,
il y a quelque chose qui est très culotté aussi par rapport au casting.
C'est plus l'histoire de Joker et Rises, c'est plus l'histoire de Bane, finalement.
Il a psychologisé les personnages de super-héros. Il a psychologisé.
Ouais, mais c'est la prouesse, elle est là.
C'est-à-dire que c'est quelque chose que ça reste.
Il a transformé jusqu'à la franchise James Bond. C'est-à-dire qu'après Dark Knight, quand même, même James Bond commence à avoir des questionnements
existentiels.
Qui va suivre Dark Knight, c'est Skyfall. Skyfall, il y a une scène, la scène du métro.
Mais bien sûr.
On dirait du Dark Knight. Enfin, on dirait Joker.
Bah, ils ont repris complètement cette psychologisation.
Il y a une influence totale.
Le super-héros qui a une conscience, quoi, et qui est construit par. Mais c'est pour ça que c'est encore précieux d'avoir des Fast and Furious.
Oui, avec des pour se vider la tête.
Lui, il n'y a pas de conscience.
Mais par contre, ce qui est marrant aussi dans Fast and Furious, c'est que ça te fait un sujet totalement sur la famille, par contre. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, tu as des valeurs hyper familiales dans un truc où ils se tabassent la gueule.
Parce que c'est de droite, peut-être.
Non, ouais, c'est ça, ce sont des films républicains, je pense.
Bah, grave.
Mais bon, en tout cas, le propos n'est pas forcément ce soir, parce qu'on ne l'avait pas inscrit au sommaire. J'allais dire la trilogie, mais non. Mais la multitude de séries des films Fast and Furious, en tout cas.
Non,
la conclusion, si vous voulez, de tout ça, c'est que Tenet, c'est bien, ça porte son nom, parce que du coup, c'est.
C'est très net, en tout cas.
Ben non, justement, c'est carrément pas net, en fait.
Comme Baptiste.
C'est absolument flou, je trouve. Et c'est une histoire, en fait, c'est un film qui ne raconte rien.
Mais du coup, qu'est-ce que t'as pas compris? Parce que c'est quand même...
C'est pas la question, en fait, de quelque chose que j'ai pas compris, ouais. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'après, le côté spectacle, blockbuster, etc., c'est très bien, mais...
Non, mais moi, je pense que surtout...
Mais si tu veux, en fait, le truc, c'est qu'à un moment, en fait, je vais voir des films pour une histoire qu'on me raconte. Oui. Et si vous voulez, le truc, c'est que de jouer sur la prouesse scénaristique, de vouloir, en fait, si vous voulez, essayer de démêler un sac de nœuds avec des histoires de on va dans le temps, mais on n'y va pas vraiment. En fait, on est avancé, si vous voulez, de quelques secondes. En fait, on retourne en arrière. Il nous faut des espèces de respirateurs artificiels pour pouvoir, en fait, partir dans le passé.
Oui, justement.
Alors, c'est vrai que, bon, il y a des prouesses au niveau de la réalisation, parce que on voit bien que les mecs, il a fallu qu'à un moment donné, ils fassent les mouvements en sens inversé, que les images ont été mises dans le sens inverse, etc. etc. Il y a des trucs qui sont quand même parfois assez surprenants. Je pense justement à cette séquence-là sur l'autoroute avec les camions de pompiers qui arrivent. On voit la voiture qui est accidentée. On comprend pas très bien, en fait, cette voiture, ce qu'elle fait là au milieu, et que du coup, en fait, quand tu reviens, on voit qu'en fait c'est la fille qui est à l'intérieur,
Tony Scott fait beaucoup mieux dans Déjà Vu.
Tony Scott, c'est une autre époque, c'est autre chose.
Il y a le même type de poursuite et il fait autre chose.
C'est une autre génération de réalisateurs aussi.
Il nous manque beaucoup, Tony.
Avec Tony Scott,
c'est quand même autre chose.
Et en même temps, très personnel.
C'est vrai que pour en rester vraiment sur Tenet, moi, c'est pas un film qui m'a vraiment convaincu, qui m'a quand même assez. J'avais pas d'attente particulière, mais en dehors de l'aspect spectacle, moi, Nolan, non.
Moi, la seule attente, c'était de retourner en salle. Bon, ça m'a fait retourner en salle. J'ai pris du plaisir en le voyant. Mais je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Guilin. Il manque un... On s'attache pas aux personnages.
Non, c'est des personnages fonction. Ouais. Mais le principe même, rien que la scientifique, elle lui explique des trucs. On dirait qu'elle va se suicider. Enfin, je veux dire. Non, mais c'est pas, il lui a dit.
C'est elle qui envoie la balle.
Alors, Clémence Poésie, qui est pourtant capable de jouer Fleur de la Cour dans Harry Potter, est très bien, tu vois. Mais là, elle fait oui, alors peut-être que, en fait, machin. Et il y a un truc, mais qui m'a outré. C'est que la meuf, elle te montre un truc, elle prend une balle avec un gant, elle lui dit oui, parce qu'il y a des protocoles, machin, il faut attraper la balle avec le gant, parce que si c'est pas avec le gant, c'est dangereux. Et après, plus jamais, on entend parler de ce
gant. Tout le monde
touche
prend
des flingues, il touche des balles, il touche tout ce que tu veux, ils attrapent des sacs, des machins, des trucs inversés, ils montent dans des voitures inversées. À aucun moment, ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas les gants.
Juste.
Mec est même pas capable d'aller
conclure. On conclut sur Daniel après.
Je vais conclure en ouvrant une grosse brèche, mais tant pis. Un jour, il faudra parler de la direction d'acteur de Nolan qui demande du sous-jeu, j'ai l'impression. Oui. Parce que ce dont tout le monde s'est moqué, c'est-à-dire la mort de Marion Cotillard, qui est une super actrice. On imagine bien que sur un film hollywoodien, une séquence comme ça, il la tourne 30 fois. Si au montage, il a choisi ce moment où elle joue mal, c'est parce qu'il a quelque chose avec le sous-jeu des acteurs. Et dans Tenet, les acteurs sous-jouent tellement qu'en fait, on ne s'attache pas à eux. L'émotion, elle ne passe pas.
Oui. C'est vraiment l'inverse, pour le coup, du jeu anglais. Parce que le jeu anglais, c'est quasiment presque l'outrance. Les mecs, ils sont en mode Shakespeare. Enfin, ils jouent avec leurs tripes, ils incarnent. Je ne sais pas si tu as vu n'importe quelle série, Hercule Poirot, machin. Mais les mecs... Il joue Bénil, bien sûr. Mais il joue.
On fera une émission sur Bénil, parce que Bénil a passé pendant 20 ans toutes ses vacances d'été à Marseille, sachez-le. Et je ne l'ai jamais croisé, et c'est le grand regret de ma vie. On en restera là sur le fait que Nolan, il adore le sous-jeu des acteurs. Ouais. On va falloir qu'on avance parce que l'horloge tourne, malheureusement. Et que nous, on n'est pas comme dans Tenet. Hein, on ne peut pas retourner en arrière. Et témoin oculaire, ce n'est pas un palindrome. On va écouter un petit morceau de musique. C'est de Wallflower, d'Etta James. Ça apparaît dans Retour vers le futur. C'est la séquence où George McFly va déclarer sa flamme à Lorraine. Lou. Milkshake Show.
Roll while the
On est de retour dans Témoin Oculaire sur Radio Galère 88.4, accompagné toujours de Guilin et Daniel. Et là, on va parler de Ron Cobb.
Excuse-moi Thomas, juste un petit mot pour dire que ceux qui ne l'ont pas vu, regardez Cadillac Records, un film formidable où Beyoncé Knowles joue Etta James, un film sur la maison de disques Chess Records dans les années 50 avec Adrien Brody. Voilà, ne ratez pas ça.
On peut le voir où ?
On peut le voir où ? En téléchargement illégal.
On en reste là.
On n'a pas tutut, pas de marque.
D'accord. Alors Ron Cobb, dessinateur de presse, illustrateur, chef décorateur, scénariste, réalisateur. Il est devenu une légende en travaillant notamment sur le Retour vers le futur. C'est lui qui a développé la machine à voyager dans le temps, la DeLorean. Il a travaillé sur Alien. Il a travaillé également sur Star Wars. Il est l'inventeur, designer notamment du vaisseau, le Nostromo, que l'on retrouve dans Alien. Alors dans sa jeunesse, Ron Cobb a travaillé chez Disney à Burbank à l'aube des années 60, allant même jusqu'à intégrer les équipes de La Belle au Bois Dormant, avant de se faire licencier. Bon, à l'époque, on sait très bien que chez Disney, il y avait des problèmes en termes de positionnement économique, ça rentrait en bourse, etc., etc. Bon bref, voilà. Et donc, on sait très bien que Walt Disney a été très sévère, en tout cas avec ses équipes. Ron Cobb, lui, il a travaillé pour l'armée américaine à un moment. Il a été mobilisé au Vietnam comme dessinateur. Il a vécu tout un tas de petits boulots aussi, alimentaires. C'était au milieu des années 60. Et il intègre à Los Angeles, donc après sa mobilisation, le Los Angeles Free Press, qui était connu comme étant l'un des journaux alternatifs de l'époque avec une ligne éditoriale très radicale. Il était artiste freelance, il était connu comme l'un des meilleurs dessinateurs politiques de l'époque. Autant vous dire que déjà très jeune, il était quand même assez talentueux. Aux alentours des années 1970, il a fait ses premiers pas dans le monde du cinéma avec un film fauché et culte qui était Dark Star. Première œuvre du maître Jane Fonda Carpenter. Ron dessine donc le vaisseau spatial du film. C'est un exercice qui recommence en 1978 avec Alien. Et c'est à lui qu'on doit donc les lignes extérieures et intérieures du Nostromo. Alors autant vous dire que c'est un travail quand même colossal. Il a complètement développé l'univers qu'on retrouve en fait dans Alien et qui a après été poursuivi et récupéré.
Oui, en fait, l'atmosphère, c'est lui quoi. Enfin, tout le...
C'est au début en tout cas. Il a travaillé en tandem avec Hans Rüdiger pour Alien et c'est notamment aussi donc Giger lui était concentré sur le développement en fait du xénomorphe.
Ouais.
C'est lui qui a voilà, on va dire développé l'aspect physique en fait de l'alien, mais l'incroyable créature, elle, a été particulièrement développée en termes, si vous voulez, d'agissement, de personnages, de menaces qu'on peut retrouver dans l'espace par Ron Cobb. L'une des particularités, en fait, si vous voulez, physique de la bestiole, ça a été l'idée, et c'est ce qu'a apporté Ron Cobb, de lui donner justement ce sang très acide, ce qui rendait en fait la bête, en tout cas l'alien, beaucoup plus difficile à tuer. Donc le dessinateur ensuite, il a rempilé sur les autres films aliens, il a imaginé des bases de colonies terrestres, etc. Et il a aussi travaillé sur toute la direction artistique. Donc, il était le designer total en fait, du film Conan le Barbare avec Arnold Schwarzenegger dans les années 80. Et c'est lui donc, qui était aussi chef décorateur sur le tournage qui a eu lieu en Europe.
De l'immense John Milius.
Mais oui.
Et oui, immense, John Milius. Il faudra faire une émission dessus. D'ailleurs.
C'est très important, en fait, cette petite anecdote, quand même. Donc, lui, il n'était pas crédité, en fait, au générique de Star Wars en 1977, mais Rob Cobb est le créateur de nombreux aliens qui sont présents dans la fameuse séquence que l'on connaît de la cantine de Mos Eisley.
Ah ouais, la cantina.
Aliens, voilà. Et c'est lui qui a développé, en fait, ben, les aliens, les décors de cette séquence-là, qui est une séquence célèbre, et il n'a pas été crédité, donc.
Ah, pas générique. De chance, quoi, ouais, voilà.
Bah, pas de chance, alors je sais pas trop ce qui se passait à l'époque, mais ça devait être un peu peut-être conflictuel.
Mais belle imagination, en tout cas, parce que c'est diversifié.
Hein. Appel au spin-off et qui a rapporté quand même beaucoup d'argent, je pense, en faisant des spin-offs à partir de cette séquence, parce que tu peux reprendre des persos, tu peux reprendre des planètes, plein d'idées.
Ah ouais, ouais, c'est clair.
Ron Cobb, il ne s'arrête pas là, il continue, si vous voulez, sur sa lancée, il continue à travailler sur des films quand même à grand succès, des films quand même qui sont cultes. C'est lui, par exemple, qui a inventé et qui a développé le Flying Wings dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue. C'est l'avion, si vous voulez, donc c'est l'objet central de la séquence de la bagarre burlesque qu'on retrouve entre Indiana Jones et cette espèce de colosse nazi qui finit découpé par l'hélice.
Ah oui, sur le...
Donc, cet avion
ouais.
avec la double hélice, la double hélice, avec un anac
ouais, magnifique cette séquence d'ailleurs.
Avec le cockpit et tout ça, donc c'est lui qui a développé cet engin-là et donc j'imagine qu'il a dû travailler sur tout l'aspect de la séquence,
chorégraphique et tout, caméra, ouais, ouais, ouais,
etc. Bah
ouais.
Donc c'est quelque chose qui est assez fabuleux.
Ah, génial,
dans les années 80, alors c'est là qu'il a été vraiment dans les années les plus prolifiques de sa carrière, au cours desquelles il a démontré toute l'étendue de son génie créatif au cinéma en participant à des productions de films comme Conan le Barbare, déjà, on l'a cité, mais aussi Abyss de James Cameron, Retour vers le futur, on l'a dit, il a inventé la machine, Running Man, encore avec Schwarzy, et qui a un univers, qui a un univers post...
Par, comment il s'appelle l'acteur qui jouait Starsky.
Ah bon,
Paul Michael Glaser ?
Mais oui, Paul Michael Glaser, c'est lui qui réalise Running Man. Ouais.
Ah ouais, ça alors, tu vois ?
Ah ouais.
Tu m'as appris un truc.
Tiré d'un bouquin de Stephen King qui n'a rien à voir avec le film et qui est super aussi.
Mais il a aussi réalisé, enfin il n'a pas réalisé, mais il a aussi participé à beaucoup de nanars comme RoboJox. Alors RoboJox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bonne série B. C'est en fait un méca, c'est... comment vous expliquer ? C'est un film américain.
C'est E.T. qui fait des blagues ou...
Mais c'est un méca d'animé japonais en fait. C'est-à-dire que c'est une histoire, si vous voulez, donc c'est un film des années 80. C'est les histoires où tu as un individu qui se retrouve en fait à animer un robot géant un peu à la Goldorak.
Ah, genre Patlabor quoi, des trucs comme ça.
Voilà, donc en fait déjà le méca, si vous voulez, c'est un sous-genre en fait du manga au Japon.
Ouais.
Et donc lui il a travaillé, alors c'est très marrant parce que bon, on peut retrouver le film sur les réseaux internet et on voit par exemple des images avec les mecs, ils ont un casque intégral de moto genre en mode en mode Paris-Dakar, enfin,
et du coup les robots sont créés comment?
C'est lui qui a travaillé en fait sur les robots, qui a fait qui a échafaudé en fait, si
c'est
vous
pas
voulez,
des humains avec des structures, c'est
non,
vraiment
c'est
une espèce de
non c'est, si tu veux c'est ce qu'on retrouve dans Pacific Rim par exemple, c'est-à-dire ce sont des soldats qui intègrent en fait la tête d'un robot géant qui vont faire une espèce de guerre intergalactique contre d'autres robots géants, contre
souvenez-vous
d'autres monstres.
Souvenez-vous de
quoi.
Méca Stresante
dans
South Park.
Dans South Park,
oui. Un méca de Barbara Stresante.
Méca de Barbara Stresante, oui. C'est l'effet Stresante, quoi.
Donc après, il a travaillé sur d'autres films, comme par exemple Profession Génie avec Val Kilmer.
Val Kilmer,
Val Kilmer qui doit avoir à peu près, je sais pas, 18 ans, 20 ans, quoi.
Ouais,
un truc
c'était
comme ça,
un peu avant Top Secret ou un peu après.
Mais c'est assez étonnant parce qu'il a toujours cette trajectoire de travailler sur des films qui ont un rapport en fait avec la science, avec le futur, avec les mécaniques, l'espace, etc. Donc il avait vraiment une vision en fait qui était très propice, en tout cas, à la création, à l'élaboration
de films
robots, et à la création d'imaginaires en fait. Donc il était très prolifique par rapport à ça. Consécration ultime aussi dans les années 80 pour Ron Cobb. Il a travaillé sur toute la DA du clip Rook Boy des ZZ Top, un clip intersidéral qui est extrêmement réussi. Alors je vous invite à aller voir ce clip sur YouTube. Il est facilement trouvable. Le morceau lui par contre n'a strictement aucun intérêt. C'est de la soupe, mais c'est incroyable. Mais bon. Pour le côté artistique, si ça vous intéresse d'avoir
un
peu
plus de
culture et de connaître. Je ne sais pas si vous voyez sur les albums des ZZ Top, il y avait une espèce de Cadillac mixé à un vaisseau spatial et tout ça. Bon,
c'est encore
une invention de Rob Cobb. Donc voilà, le mec a vraiment, si vous voulez, des idées complètement très précises et très, très évocatrices. Par la qualité de son travail, donc sur les années qui ont suivi, sa vision réaliste et avant-gardiste des technologies... Il a travaillé sur, en tout cas à la demande de Steven Spielberg, sur Rencontre du troisième type, qui était en projet avec la Columbia. Il voulait raconter, donc, Ron Cobb, une histoire dramatique sur l'idée de l'événement de Kelly Hopkins, qui est considéré aujourd'hui comme un gros wax, en fait, par le projet gouvernemental US qui s'appelle le Blue Book. Alors l'histoire, si vous voulez, du Kelly Hopkins, c'est l'histoire donc dans les années 50 d'une famille paysanne du Kentucky qui a eu la visite d'étranges petites créatures et d'une soucoupe volante laissant derrière elle une traînée de couleurs, en fait arc-en-ciel. Donc cette famille aux États-Unis, donc ça a fait énormément de bruit.
Qui ne prenait pas de drogue d'ailleurs.
Non, c'était une famille, c'était à peu près. Alors c'est très étrange parce que du coup je me suis documenté dessus. C'est très étrange parce que donc cette famille a eu la surprise un soir de voir un espèce de petit être comme ça débarquer à une. En fait, au départ, ils ont vu une soucoupe volante parce que le père est allé chercher donc de l'eau dans le puits. Une soucoupe volante en fait atterrir dans le ravin qui était à proximité de la maison.
Je me désolidarise de ces propos et si des gens de la CIA viennent ce soir ou quoi, je ne valide pas du tout cette histoire.
D'accord. Bon. Par contre, tu télécharges, mais c'est pas grave.
Ouais, ça c'est bon. Hein. Paradoxe.
C'est Adopi peut-être qui va venir te rendre visite.
On peut être assassiné à tout moment en parlant de ça. J'espère que tu prends.
Mais en tout cas, c'est une histoire assez intéressante parce que du coup, bon, ils ont vu le père a vu ces trucs-là et après le soir, en fait, si vous voulez, ils ont été un peu visités par des étranges créatures qui venaient comme ça aux fenêtres de la maison. Alors les mecs, ils leur ont tiré dessus à coups de fusil. Et tout ça, les trucs qui mouraient pas.
C'est des US, hein, ils tirent sur les tornades.
C'est une histoire improbable. Donc après, ils ont eu la visite des journalistes, ils sont tout de suite allés voir la police, ils étaient apeurés, ils ont demandé à la police de venir les aider, ils se disaient, ouais, mais il y a des monstres et tout, on n'arrive pas à les tuer. Bon, bref, si vous voulez. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que tout le monde raconte une histoire qui est quand même assez unanime. Donc, c'est-à-dire que, si vous voulez, cette histoire, en fait, de rencontre du troisième type, c'est-à-dire une proximité, un premier contact entre une espèce peut-être extraterrestre et une espèce humaine qui se rencontrait. Donc c'était l'un des événements, si vous voulez, en tout cas dans les années 50 aux États-Unis, qui pouvait en fait favoriser, si vous voulez, l'émergence de ce film-là, Rencontre du troisième type. Ce qui s'est passé derrière, c'est que bah, le budget, il n'a pas permis en fait à Ron Cobb de pouvoir réaliser son film avec ses intentions, et le studio lui craignait aussi d'avoir des poursuites judiciaires de la part de la famille Sutton. Et c'est finalement Spielberg, donc, comme on le sait, qui a décidé de réaliser Rencontre du troisième type et qui s'est consacré justement à développer une histoire un peu plus différente, moins dramatique que ce que pouvait proposer déjà dans son scénario Ron Cobb. Quelques temps après, Steven Spielberg il décida de poursuivre ce projet en y incorporant un script auquel il avait pensé plusieurs années auparavant et en prenant comme point de départ de ce nouveau film la fin du script de Cobb, c'est-à-dire un alien isolé et laissé tout seul sur Terre. La suite, on la connaît tous. Le vaisseau couleur arc-en-ciel. Le petit alien qui reste tout seul. On sait très bien de quoi ça parle. Spielberg, il avait déjà depuis plusieurs années eu l'idée, si vous voulez, de pouvoir créer en fait, une rencontre entre un extraterrestre et un enfant, etc. Ils ont développé ce film et la suite, on la connaît tous. Alors, vous allez me dire, mais Spielberg, en fait, il a utilisé Ron Cobb et il s'est fait grave de thunes par rapport à ce film-là. Mais en fait, pas du tout.
Pas du tout.
Parce que Spielberg, c'est pas ce genre de mec-là. Parce qu'il y avait une ligne dans le contrat, si vous voulez, qui permettait à Cobb, en fait, de toucher 1% des recettes.
Ah, je l'aime, ce mec.
Et un soir, il a regardé son contrat, il a vu cette ligne et il était un peu dépité. Et il a envoyé une lettre, en fait, à la Columbia. Il n'attendait pas de réponse. Un truc assez salé. Et il a reçu une réponse. Et qu'est-ce qu'il a reçu comme réponse ? Un premier chèque de $400,000.
Et voilà, Steven,
Et voilà. Et donc là, on peut dire que oui, effectivement, il y a des gens parfois dans le cinéma qui sont bons. En tout cas, on les connaît. Et aujourd'hui, ils ont 80 ans.
Ils ont une petite barbe comme ça.
Ron Cobb, il a travaillé sur de nombreux projets aussi. Il a fait beaucoup de séries Z, comme une série par exemple qui s'appelle Half the Sky, qui est de John Milius. C'est un espèce de crossover en mode western, science-fiction, avec beaucoup d'Indiens en fait, qui se dirigeaient vers l'ouest. Il y a eu un autre projet aussi qui s'appelait Atoll.
Le film de l'autre, là, comment il s'appelle Non ? Le film avec les Indiens et la science-fiction, là. Le western avec la science-fiction, putain, j'ai pas le seul à avoir vu ce film.
Peut-être.
Mais si, avec Daniel Craig en pistolero, là, j'ai pas le titre.
D'accord. Bon, ça nous reviendra peut-être après.
Cowboy et Alien.
John Favreau.
Quand même.
Je crois que
c'est John Favreau. En France, peut-être. Je crois que c'est John Favreau.
Et donc, en fait, il y a un autre projet sur lequel a travaillé Ron Cobb qui s'appelait Atoll, mais qui est complètement inconnu. Fait pas de publicité, s'il vous plaît. Et qui n'est pas du tout connu en France. Alors, il y a énormément de trucs en fait, qui ne traversent pas l'Atlantique, mais qui ne sont pas connus en, fait, en France. Mais il y a beaucoup de trucs d'échanges en fait, de création audiovisuelle et cinématographique entre, par exemple, la France et les pays anglophones. Bref, le truc, si vous voulez, c'est que Ron Cobb, il a eu un projet très ambitieux dans les années 80. C'était un projet qui était assez fou. C'était un projet qui s'appelait Mars One. C'était un projet très inspiré qui faisait en fait la promotion de la paix dans le monde au travers d'une mission sur Mars qui était commune entre les États-Unis et les Soviétiques. Ah ouais, c'était un projet très ambitieux qui a été produit communément, alors là, tenez-vous bien, par le MCA, c'est-à-dire le Music Corporation America, c'est-à-dire, en fait, si vous voulez, l'équivalent aujourd'hui de la SACEM.
Rien ne va dans cette histoire.
Ouais,
c'est complètement,
bizarre,
c'est complètement
là,
incroyable.
Ouais.
C'est absolument
bizarre,
incroyable.
La SACEM qui produit, bon, pourquoi pas.
Il y avait aussi, donc, si vous voulez, en termes de production, il y avait Apple Computer sur ce projet, en fait, donc, de rapprochement US-soviétique.
Okay.
Et il y avait aussi une autre société qui s'appelait la Jet Propulsion Laboratory. C'est une espèce de boîte qui fabrique des trucs de l'espace, des réacteurs
jetpack,
pour
ouais.
envoyer des fusées, des trucs comme ça. Et malheureusement, si vous voulez, bah, le projet, il n'a jamais vu le jour, malgré qu'il soit sur de bons rails, parce que l'histoire le rattrapa. Et la chute de l'Union soviétique entraîna avec elle bah, cet incroyable projet. C'est-à-dire que le projet n'a jamais vu le jour, parce que bah, l'Union soviétique, en 89, n'existait plus.
Bah oui.
Au cours des années 90 et des années 2000, Rob Cobb, il se consacra davantage à ce qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire contribuer à créer des univers de science-fiction pour le cinéma. Tous les engins et toutes les autres machines que l'on retrouve dans Total Recall de Verhoeven, c'est lui. Les bombes que l'on retrouve dans True Lies de Cameron, c'est lui. Le Rocket Pack que l'on retrouve dans Rocketeer, c'est encore lui. Et tous les vaisseaux spatiaux de films un peu plus série B, un peu plus confidentiels comme Space Trucker avec Dennis Hopper... Jamais vu,
jamais
je sais pas ce que c'est ce
plus.
Film.
Moi, Dennis Hopper, pour moi, le dernier, c'est Waterworld. Dans ma
on
tête.
Sait très bien que Dennis Hopper, il a signé des contrats pour des films parce qu'il voulait juste prendre de l'oseille. Ça, on le sait très bien. Il a aussi travaillé sur Titan à eux.
Ah oui.
Et il a travaillé sur un film, alors que je ne connais pas, hein, mais je suis très curieux de le voir. Un film des années 2000 qui s'appelle Southland Tales. Avec
ah bah oui,
quand même...
c'est Richard Kelly.
Oui.
Ouais,
Richard
mais vous connaissez ce film
bah, bien sûr.
Qui, avec quand même au casting, il y a The Rock,
Sarah
Michelle Gellar, Justin Timberlake. Non mais attends, c'est quoi,
c'est
quoi cette histoire? C'est un truc de ouf.
Il est monstrueux ce film.
Non, c'est plutôt... enfin, moi je dirais que c'est plutôt bidon. Mais on
ah, ça a l'air complètement
bah,
nul.
Fou,
mec.
Il est foutraque,
ça...
attends, il est vachement osé.
C'est un vrai nanar, je pense que c'est un vrai nanar.
C'est du grand nanar.
Et il a travaillé également aussi sur le film donc à l'aube du 10e jour avec du 6e jour pardon avec Schwarzy.
Ah oui.
Vers la fin de sa carrière, il dessina quelques aliens aussi pour le film District Night de Neil Blomkamp.
Mmh. Super film.
Il a proposé plusieurs looks d'aliens et des dessins aussi de quelques vaisseaux pour le film John Carter qui a été fait par Disney.
Ouais.
Il n'a pas été crédité non plus au générique. Alors je ne sais pas ce qui se passait, mais il y a eu des plans qui n'ont pas été utilisés.
John Carter, je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur le tournage.
Mais malheureusement pour lui, Ron Cobb, en tout cas, bon, même si, s'il touchait pas mal de caillasse avec ce qu'il a fait auparavant, bon, c'est vrai qu'il n'apparaissait pas, il n'a pas eu le fame qu'il méritait. Quoi qu'il en soit, il y a d'innombrables créations en fait, de Rob Cobb qui ont été disséminées dans le cinéma américain de ces 30 dernières années, qui ont favorisé parfois le succès de films qui sont devenus cultes. Sans le savoir, cet homme de l'ombre fut l'un des principaux créateurs de la pop culture cinématographique américaine. C'est finalement beaucoup de lui, surtout, que l'on retrouve dans Ready Player One de Spielberg.
Eh ben, dis donc.
Ron Cobb, il est né le 21 septembre 1937. Laisse-moi terminer.
Ouais,
Ron Cobb, il est né le 21 septembre 1937 à Los Angeles. Il s'en est allé au premier jour du printemps dans l'hémisphère sud à Sydney. C'était le 21 septembre 2020. Et ça, si c'est pas une boucle à la télé.
Ah bah ouais.
Yeah, mon gars.
Putain de boucle, ouais.
Bah écoute.
Et il a jamais eu dans Ready Player One un petit clin d'œil, genre un mec qui s'appelle Ron Cobb ou quelque chose de Ron.
Je sais pas,
ou...
moi je l'ai pas revu depuis, en tout cas, parce que bah, j'ai appris sa disparition. Bah, fin septembre, mais ça mériterait peut-être de revoir quelque chose.
Bah
il doit
ouais,
peut-être
il
y avoir
des
trucs.
Un easter egg ou quoi.
Ça m'étonnerait pas que Spielberg il ait fait
bah
des
si
petites
le mec
espèces
il
de petits caméos.
400 000, je pense que il
c'est
a.
Le film
il...
de l'easter egg.
400 000, le premier chèque.
Le premier chèque, il était prêt à faire autre chose.
En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir.
Ah ouais,
ce
moi,
mec,
franchement,
parce que c'est quand même quelqu'un qui a construit notre imaginaire.
Alors il y a son site internet clairement. Personnel qui est toujours disponible sur internet. Ron Cobb, ça s'écrit R-O-N-C-O-2-B. Je vous invite à aller voir, vous tapez ça sur les internets, vous allez voir, il y a plein de planches de dessins qu'il a fait, il y a plein d'histoires sur lesquelles il a participé, sur les trucs sur lesquels il a développé. Voilà, je pensais que c'était important de lui rendre hommage, c'est un mec qui est méconnu, et en tout cas, ben, on le remercie en tout, pour tout ce qu'il a fait, parce que nous qui sommes de cette génération 80-90, en tout cas, lui, il a favorisé notre imaginaire, clairement.
Ah, il l'a construit.
Il l'a construit, de bout en bout.
Et il n'y a pas que les rebooks dans Alien, les rebooks de Sigourney Weaver qui ont été mythiques, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et en tout cas, je pensais que c'était... Et le chat.
Et il a jamais réalisé lui-même de films.
Si il a réalisé, il a réalisé des séries B. Il a travaillé sur des projets qui ont jamais vraiment été aboutis parce que je pense aussi à un moment qu'il devait avoir et c'est peut-être pour ça qu'il devait pas apparaître en fait.
Il
je pense
fatigué.
Aussi au générique. C'est pas tant qu'il était fatigué, mais je pense qu'en fait c'était quelqu'un qui pour en arriver, si vous voulez, à développer des imaginaires aussi précis, c'est-à-dire que là, on est sur quelqu'un qui a un travail qui est de l'équivalence en fait, de Moebius, si vous voulez, sur la précision en fait, du détail et du travail,
ouais.
etc. Et je pense que ça devait être véritablement un acharné du travail et qui devait être très exigeant. Et
ah oui, et peut-être trop pour les studios, du coup.
Très certainement qu'à un moment donné, pour les studios, ça devait pas fonctionner en termes de rapport humain, quoi. Mais voilà. Ron Cobb, allez-y, checkez ça. On va tout de suite continuer.
Bravo, en tout cas. Merci.
Merci à lui, surtout. Hein. On va continuer
belle vie, quoi.
Avec The Hunt.
Écoute, et, j'attaque tout de suite, je veux passer une chanson.
Daniel, alors attends, parce que
deux
je salles, sais
deux
plus
ambiances.
Où je suis
Ron
sur
Cobb, The Hunt.
Ma sélection de musique. Mais on va mettre un extrait de The Hunt. Et après, c'est à toi.
Je sais pas m'en servir.
Tu vises, tu tires.
Tout le monde à terre!
Je sais ce que c'est. C'est le Manor Gate. Tous les ans, une élite friquée kidnappe des gens normaux comme nous. Où est-ce qu'ils vous ont enlevé?
Dans le Wyoming.
À Orlando.
Dans le Mississippi.
Ce n'est pas une plaisanterie. Ils chassent des êtres humains pour le plaisir.
Ce ne sont pas des êtres humains.
Donc voilà, un petit extrait en VF, malheureusement, de The Hunt, dont je vais vous parler un peu maintenant. Donc je vous dis tout de suite, on est là sur un film plutôt de série B, complètement revendiqué. The Hunt, c'est un film réalisé par Craig Zobel qui a déjà eu, pour sa sortie, une sortie quand même rocambolesque. Ça devait sortir le 27 septembre. La bande-annonce était déjà sortie, il y avait déjà une com' autour du film. Sauf que une des innombrables fusillades qu'on trouve aux États-Unis, donc une fusillade avant, une fusillade autour de la date de sortie, la sortie est annulée. Donald Trump fait des tweets incendiaires sans avoir vu le film, bien sûr, des tweets qui respiraient l'intelligence, comme d'habitude.
Comme d'habitude, on a vu
le dire, hein. Pour oser expliquer que c'est un film qui fait le chaos aux États-Unis, qui genre les fusillades sont à cause de ce film et tout ça. Bon, du coup, la sortie est repoussée. Ils la mettent au 13 mars. Super idée, le 13 mars. Donc évidemment, Covid, le film ne sort pas. Ils la repoussent au 22 juin. Et puis au final, le film ne sort pas en salle aux États-Unis. Il va directement en VOD. Il est sorti en salle en France le 22 juin. Je pense que peu de gens sont allés le voir en salle. C'était pas une période très bonne pour le cinéma. Et maintenant, on le trouve facilement, donc là où je vous ai, l'endroit où je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en téléchargement illégal. Donc, The Hunt, c'est un film de Craig Zobel. Craig Zobel, on l'avait déjà vu, il avait déjà fait parler de lui avec un film qui s'appelle Compliance, qui était sorti autour de 2013, qui est un petit film concept, un petit film de scénario, avec une histoire encore assez incroyable, tirée d'une histoire vraie, d'un type qui téléphone dans des fast-foods, en se faisant passer pour un agent de police, et qui pousse, donc en disant « cette caissière a commis un vol, est-ce que vous pouvez la fouiller ?» Et il pousse les gens à faire des agressions sexuelles sur des femmes qui travaillent dans les fast-foods. À la fin du film, on nous explique qu'il a été accusé de 70... Il l'a fait 70 fois quand même. Il a réussi 70 fois à pousser des gens à faire des agressions sexuelles par téléphone.
Et en plus, du coup, c'est même pas lui vraiment qui est coupable, puisque c'est par le téléphone.
Ouais,
c'est...
Oui, c'est quand même
lui, il a touché personne. Quoi. En gros, c'est la gourou, complicité de crime, quoi. Un peu
donc,
comme Manson.
Petit
quoi.
Film concept comme ça qui se passe à l'intérieur d'un film sans argent, Compliance. Je vous conseille de jeter un œil. C'est pas génial, mais ça vaut le coup d'œil. Et donc, avec The Hunt... Quand on tourne autour, on se dit, bon, petit film de série B, autour d'un scénario style Les Chasses du Comte Zaroff, ce film des années 30, donc film de chasse à l'homme, des gens kidnappent des pauvres bougres, les jettent dans un jardin, et des riches essayent de les massacrer. C'est un peu le sujet de Hunger Games, c'est le sujet du très grand chasse à l'homme, avec Jean-Claude Van Damme.
Ok, chasse à l'homme.
Sauf que ça attire l'œil, parce qu'au scénario, on retrouve Damon Lindelof, et Nick Hughes, Damon Lindelof, scénariste de Lost, Nick Hughes, fils de l'autre scénariste de Lost, si vous vous rappelez. Lost, c'était scénarisé par Damon Lindelof et Carlton Hughes. Donc là, il est avec son fils. Et puis Lindelof, cette année, c'est quand même le showrunner de la série la plus intéressante des deux dernières années, c'est Watchmen. L'adaptation de Watchmen sur HBO, qui est diffusée en France sur OCS. Qui a reçu une flopée de prix, qui est une série formidable. Donc déjà, on a envie de jeter un coup d'œil. Et à la production, c'est Jason Blum. Jason Blum, c'est le gars qui a produit tout ce qui s'est fait en film d'horreur et en film de genre, surtout en film d'horreur, sur les 10 dernières années. C'est-à-dire que c'est le gars qui a fait Paranormal Activity,
Conjuring,
qui a fait Conjuring, Insidious, American 2, 3, Nightmare, toutes les choses qui ont cartonné et qui ont relancé quand même le film d'horreur dans les salles, parce que c'est des films qui cartonnent dans les salles, auprès d'un public entre 12 et 18 ans, ouais, ou même, 18, même plus. Donc c'est quelqu'un qui sait faire du cinéma quand même, qui sait produire. Et... Mais l'intérêt principal de The Hunt, c'est son intérêt politique. C'est-à-dire que c'est pour ça que je fais le lien avec les élections américaines, parce que dans The Hunt, le comte Zaroff, c'est-à-dire les chasseurs, les gens qui kidnappent ces pauvres bougres, ce sont des progressistes, des démocrates.
Ouais.
Des démocrates progressistes, donc pleins de bien-pensance, qui vont kidnapper des électeurs de Trump, des petits gars du Sud... débile, fan des armes,
ouais, complotiste. Tous les trucs, genre Arkansas, Oklahoma, voilà, Wyoming, ouais, tous les endroits les plus...
Des riches progressistes des villes qui se disent mais ces gens-là, ils ne méritent pas de vivre, donc on va les kidnapper et pour se marrer, on va les balancer dans un parc et on va tous les flinguer. Et on va leur donner plein d'armes, parce que bien sûr, ces Trumpistes, ce qu'ils adorent, c'est les armes.
Et nous, on est des gentils, on leur laisse une chance. Quoi.
Et, sauf que, évidemment, on leur donne des armes, mais ça sert à rien. D'ailleurs, c'est assez bien repris dans le film, questionné. C'est-à-dire que ces proies qui sont armées, à un moment, les chasseurs leur disent « Mais alors, maintenant, vous voulez des armes pour vous défendre ? Vous avez des armes, qu'est-ce que vous en faites ?» Ben rien, vous vous faites quand même massacrer. Et donc, ils retournent quand même, Craig Zobel, ils retournent ces personnages et ces concepts en mettant des progressistes et des gens, donc des humanistes, des gens qui, avec leurs valeurs humanistes, finalement, se mettent à massacrer leurs ennemis politiques.
Oui, à un moment, t'as le mari de la meuf dans la station-service qui dit « Oui, tu te rappelles quand on était à la soirée où il y avait les Noirs ?» Et elle lui fait « Quoi ?» On ne dit pas les Noirs, on dit les Afro-Américains.
Il y a beaucoup de répliques comme ça. Qui joue voilà sur les débats politiques qui se passent actuellement aux États-Unis, qui passionnent actuellement aux États-Unis, sauf que on reste dans un film de série B. C'est-à-dire qu'il va pas s'apesantir sur vous prouver quelque chose. Jason Blum, c'est aussi lui qui a produit Us et qui a produit Get Out de Jordan Peele.
Jordan Peele.
Ouais, ouais.
Avec Jordan Peele, il y a un propos politique qui est porté jusqu'au bout. Ici, avec Craig Zobel, il ne porte pas son propos politique jusqu'au bout. Très vite, après avoir fait ses présentations, il nous lance sur un film où c'est explosion d'hémoglobine, tête qui explose, démembrement, grenades, massacres. Toutes les sortes d'armes sont utilisées. Et on est quand même dans du jubilatoire. Oui. Surtout qu'on a un twist aux trois quarts du film qui renvoie tout le monde dos à dos. C'est-à-dire que pourquoi ces humanistes se sont retrouvés à faire ça, ça prend sens et finalement... comme dans South Park, où les élections opposent toujours un sandwich au caca et une poire à lavement.
Ouais, c'est ça.
Là, on est un peu...
saison 22.
On est un peu autour de ça, quoi. 21. C'est saison 21, tu dirais ?
21 ou 22, je ne sais plus, ouais. Oui, c'est là où arrive PC Principal à la place de Garrison. Et que Garrison devient une espèce de président à la
Et
bouche,
devient Trump, bon, oui.
À la Trump.
Orange comme Trump... Donc voilà, c'est un film plaisir quand même, donc un film de série B, un film plaisir, avec un propos politique assez iconoclaste. Je rajouterai une mention spéciale à l'actrice principale, Betty Gilpin, qui va se révéler l'actrice principale, parce que c'est un film plein de second rôle, de gueules qu'on a déjà vues dans des séries, dans des films, qui vont tous mourir à peu près, très souvent... Au bout de 30 secondes...
Après la présentation, pratiquement,
voilà.
ils sont
présentés,
c'est génial,
leur tête explose. Voilà.
Ah, il m'a presque touché.
Ils vont mourir très rapidement. Et on est sur des trucs cartoonesques, quoi, hein,
oui,
sur du Tex Avery d'horreur, avec un propos politique plutôt iconoclaste. Donc c'est un film que je vous conseille de voir, qui est passé inaperçu, c'est dommage, parce qu'il était un peu plus intelligent que ce que fait Jason Blum d'habitude. Voilà, Betty Gilpin, l'actrice principale, qui joue avec un flegme assez jubilatoire en enchaînant les coups de canon.
En plus, ils n'ont pas pris une actrice très belle, forcément. Elle a... C'est pas l'archétype de la bimbo, c'est pas l'archétype de la genre Sigourney Weaver, tu vois. Elle incarne vraiment cet entre-deux, quoi, ce côté un peu genre, ouais, par redneck.
Et dans son jeu, elle a un jeu assez flegmatique, elle sous-joue un peu ce qui rend tout... assez burlesque. Au final, c'est un film plutôt burlesque, avec à la fin, la grande méchante, on a une révélation avec un guest, un caméo, que je trouve super, hein, d'une actrice oscarisée géniale. Mmh. Un film que je vous conseille de voir. C'est pas un chef-d'œuvre, on n'en parlera pas pendant des années, mais il y a un bon kiff à passer avec.
Eh ben merci Daniel, merci pour cette analyse de The Hunt sur l'aspect politique et polémique qu'il a pu avoir aux États-Unis, qui fait le lien avec l'actualité. On connaît très bien de toute façon les mouvements sociaux et l'espèce de révolution, en tout cas d'identification. Communautaire qu'il y a aux États-Unis,
oui,
qui est tout à fait
Black
différente,
Matter,
en tout cas, qu'il n'y ait pas de malentendu avec les auditeurs, mais qui est totalement différente, si vous voulez, de ce que nous, on a en France. Aux États-Unis, c'est quand même quelque chose qui est bien particulier, qui est bien propre au pays. Moi, je n'ai pas vu The Hunt, donc j'en parlerai pas. Peut-être que toi, Guilin, tu vas ajouter quelque chose.
Moi, ce que j'ai bien aimé, surtout dans The Hunt, comme dit Daniel, c'est le côté un peu iconoclaste du truc, quoi, parce qu'on commence vraiment par une bimbo du genre héroïne à la Carpenter, puis elle se fait dézinguer d'un coup, puis ensuite on suit une espèce de mec genre Sawyer dans Lost, puis il se fait aussi dézinguer, et puis finalement on arrive sur donc le petit vieux et la fille qu'on va suivre tout le long du truc, quoi.
D'accord. Avec un bon, je ne révèle pas pourquoi, mais un petit clin d'œil à Hostel que je trouvais sympa aussi.
D'accord. Bon, mais écoutez, en tout cas, moi ça m'intéresse plutôt, donc... The Hunt, réalisé par
Craig Zobel, sorti prévu en 2019, finalement sorti en 2020 en VOD, salopé, mais...
Et lui, il a réalisé que Compliance ?
Non, il a fait d'autres trucs, des films assez confidentiels quand même. D'accord. C'est-à-dire que des films... Mais c'est ce que moi j'aime beaucoup, c'est quand même des films de scénario.
Ouais, c'est quasiment un film de scénario.
Voilà. Il n'y a pas beaucoup de fric. On essaye de mettre en scène un scénario avec des twists, avec quelque chose, on vous attrape par l'histoire, quoi.
Ouais, carrément. Ah bah si, moi je voulais dire un petit truc, c'est que j'ai une copine qui l'a vu à Marseille, et elle a un blog qui s'appelle Léa, enfin une page YouTube qui s'appelle Léa Blabla, et dedans elle fait justement une petite analyse, une petite critique analyse de The Hunt, justement.
D'accord, Léa Blabla,
Léa
sur
Blabla,
YouTube.
Ouais. Ouais.
Ok. Et si vous posez la question de savoir ce que Trump regarde à la Maison Blanche comme film pour pouvoir faire des critiques dessus sur Twitter, il regarde The Hunt. Il regarde des films comiques série B où on massacre des blancs.
Faut quand même dire que ce Trump très intelligent a tenté de faire interdire le film en disant que c'était un film de gauchiste. Hein.
Ah oui, alors que c'est un peu comme Get Out, quoi. Comme tu disais, si Get Out c'est un film.
D'accord.
C'est que des nazis
c'est un petit
qui
peu le
On nage dans une époque qui est absolument formidable. Merci à vous. On va s'écouter justement un morceau de musique qui apparaît dans The Hunt. Ça s'appelle Mississippi Delta. C'est interprété par Bobby Gentry. Et c'est assez farmer, quoi. sur le 88.4 de Radio Galère à Marseille. On est aussi disponible sur radiogalère.org et en podcast. Je vous invite à rejoindre et à liker la page Facebook Témoin Oculaire au pluriel, témoinoculaire.fm. Ça nous ferait plaisir en tout cas. Et puis on va vous laisser la playlist de ce soir, les playlists d'avant. On va vous mettre des photos de Ron Cobb, on va vous mettre des photos de Daniel, des photos de tout le monde.
Les micros. Sur ces photos, très peu vêtus.
Voilà.
Des nudes.
On va mettre des nudes, on va mettre pas mal de trucs. Alors là, on va parler d'un truc un peu plus sérieux parce que c'est un peu plus contemporain, c'est un peu plus dans l'air du temps et c'était pas forcément fait exprès, mais l'actualité fait que à un moment donné ça nous apporte un propos. Ouais. Je vais vous parler déjà d'abord de David Dufresne. David Dufresne qui est donc le réalisateur d'Un pays qui se tient sage. Le documentaire qui est sorti au mois de septembre.
Le mois de septembre, ouais, début.
Qui a très très bien marché, qui parle justement en fait des violences policières qui ont été faites sur les manifestations des Gilets jaunes. David Dufresne, c'est un écrivain, un journaliste et un réalisateur. Lui, si vous voulez, dans les années 80, il a commencé à avoir des volontés en fait de faire de participer à des manifestations. Et il a été matraqué en fait par les voltigeurs lors de la manifestation du 5 décembre 86. Alors pourquoi le 5 décembre 86
C'est quoi les voltigeurs?
Alors les voltigeurs, c'est des espèces de brigades en fait en moto, de brigades de police qui ont des espèces, donc ce qu'on appelle en fait le bidule, c'est une espèce de gros bâton et qui passe comme ça à moto. Ils sont deux sur la bécane et ils tabassent.
Deux gars sur la moto, un qui conduit, un derrière qui tabasse tout le monde.
En mode Mad Max quoi. Enfin,
pas de plaque.
Je savais même pas que ça existait ça, tu vois.
Et oui, bon, ça existe.
Ça a existé en tout cas.
D'autant plus qu'on ne sait pas trop si c'est des gens. Enfin, en tout cas, et je vous invite à regarder les interviews de David Dufresne parce qu'il en parle. Mais on ne sait pas trop si les voltigeurs sont vraiment des agents de police ou des gens qui sont juste là pour la bagarre, comme on voit dans
Les Alexandre Benalla en puissance.
Ouais, c'est un peu ce qu'on voit dans Orange Mécanique quoi. C'est pourquoi les gens rejoignent la police, c'est parce que c'est des fous de la baston. Donc en fait David Dufresne lui, il a été matraqué donc par les voltigeurs. La manifestation du 5 décembre 1986, elle est dramatiquement célèbre parce que c'est la manifestation où on a eu la mort de Malik Houssekine qui a été battu à mort justement par des voltigeurs. Ce 5 décembre de 1986. Et David Dufresne dit qu'à partir de ce moment-là, vu qu'il était à proximité, il n'a pas vu, mais il était deux rues à côté, selon ce qu'il raconte, il a dit qu'il s'est intéressé à la police sur le versant des libertés, c'est-à-dire quel est le rôle de la police si on prend en compte, si vous voulez, la déclaration des droits de l'homme comme étant la police, en fait, quelque chose qui est au service du public. C'est un service public. La police est là pour servir la nation et pas des intérêts, si vous voulez, de l'État. C'est la déclaration des droits de l'homme de 1789. Il travaille ensuite pendant quelques années dans le label Bondage Records. Je ne sais pas si vous connaissez Bondage Records. Tu connais ?
Oui, bien sûr.
Et là, tu connais très bien Bondage Records. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le label phare du mouvement alternatif des années 80. Il y avait Les Berruriers Noirs, Ludwig von 88. Il y avait
Bondage, Théo machin, Acola,
Bondage Records.
Ouais. Alors. C'est du bon douille d'Ursel.
Moi, la musique, j'y connais rien.
Ah oui, mais c'est ça. C'est
par les musiciens qui travaillaient dedans.
C'est vraiment, voilà, c'est-à-dire que le mouvement alternatif, si vous voulez, c'est quoi ? C'est le mouvement alternatif, c'est on fait les trucs par nous-mêmes.
Trust et tout ça alors aussi.
C'est encore autre chose. Donc si vous voulez, c'est eux qui s'occupaient. C'était à la fois les musiciens qui s'occupaient de se mettre en relation avec les salles de concert, d'organiser les concerts, d'organiser les tournées, d'organiser les pressages, d'organiser la direction artistique.
Qui
essayaient d'exister. Si vous voulez, à l'époque c'était difficile. À l'époque on n'avait pas YouTube, on n'avait pas Spotify.
Une visée révolutionnaire en fait de la musique.
À l'époque on faisait pas des disques d'or avec 50 000 streams. Il publie donc
tueur de ma vue.
Il publie en 1991 un livre qui s'appelle Yo Révolution Rap. C'est un ouvrage qui est traité justement du phénomène rap en France, qui proposait un regard beaucoup plus sérieux que ce que pouvait proposer en tout cas dans les médias généralistes à l'époque l'émission HIP de Sydney. Depuis 2018, il compile sur son compte Twitter, donc David Dufresne, les témoignages des Gilets jaunes avec le hashtag #allo@placebeauvau, c'est pour un signalement. Et il parle justement donc des témoignages des Gilets jaunes qui ont été martyrisés, violentés par la police. On va passer un petit extrait d'introduction du film Un pays qui se tient sage. On se retrouve tout de suite après pour en parler.
L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber.
On est dans un jeu de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence.
Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui quand cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaires?
Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame.
Et voilà, on finit bien sûr cet extrait sur le préfet allemand, voilà, qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est-à-dire que, si vous voulez, à un moment donné, c'est des batailles rangées entre des camps. C'est le camp de l'État, de la police, de la sécurité, de l'économie, etc. Et c'est en face, si vous voulez, les gens qui essaient de se battre pour survivre. Alors nous, bien évidemment, je pense qu'on est assez unanime là-dessus. On vous conseille tous le film,
Génial,
ce documentaire. Ce allez le voir, c'est important. C'est pas un acte citoyen. Si vous ne voyez pas, tant pis pour vous. Mais je pense qu'en tout cas, ça nous permet de pouvoir comprendre
d'ailleurs,
un peu mieux.
D'ailleurs, il est très accessible parce qu'il est au Pâté-Madeleine, en bas de 5 avenue.
Pâté-Madeleine, n'oubliez pas. Madeleine de Proust.
Ou alors les réformés, ou alors le César. Mais bon,
ouais,
en tout
moi
cas,
je l'ai vu. Mais alors, par contre, quand tu disais,
il est là, quoi.
Tu disais hors antenne qu'au Pâté-Madeleine, il y avait des problèmes de synchronisation, de sous-titrage et tout ça.
Ouais, j'ai halluciné. Ouais.
C'est en français.
Tout était mélangé. J'ai pas vu de sous-titres, du coup.
D'accord. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, c'est pas grave.
Un pays qui tient sage, c'était genre écrit en entrelacé pendant toute la durée du film. J'ai fait, mais c'est quoi ce délire?
Ah ouais, bon, moi j'ai pas eu ça.
Moi j'ai vu Madeleine. Il
était normal.
D'accord. Écoutez, félicitations. Allez le voir au Madeleine. Allez le voir où vous voulez. Donc le film, en fait, si vous voulez, le film, c'est le contre-champ en fait de ce que diffusent plus massivement les médias nationaux. C'est un documentaire qui existe notamment grâce aux journalistes semi-professionnels ou à des amateurs qui, grâce aux technologies en fait d'aujourd'hui et à l'arrivée des smartphones, ont pu filmer les excès de violence commises lors des manifestations des Gilets jaunes.
Bah, c'est ce que disait Dantec, en fait. Dès que vous avez un téléphone portable, vous avez une lucarne sur le monde. Et allez-y, quoi. Enfin, filmez la violence des policiers. Filmez... Ouais. Avant de mourir, parce que maintenant, il est mort, je crois.
Ouais. Je crois aussi. Parce que maintenant qu'on l'a dit, ce serait con qu'il soit en vie.
Je crois même qu'il s'est suicidé.
Vous en voudrez. Bref.
En tout cas, voilà, il disait ça. Il disait, soyez une lucarne sur le monde, filmez les violences policières, filmez tout ce que vous pouvez.
Alors, si vous voulez, le maintien de l'ordre aujourd'hui, et ça, c'est ce qui est cité en fait par David Dufresne, le maintien de l'ordre et le maintien de l'État. C'est-à-dire que, si vous voulez, la police est là pour maintenir en fait l'ordre et la protection des institutions, et elle n'est pas là pour, si vous voulez, protéger de manière, on va dire, naturelle, en tout cas, la population.
Oui, pour ajouter un mot, il défend l'idée que le maintien de l'ordre, dans le film, ça veut dire le maintien de l'ordre social. C'est-à-dire que l'ordre, c'est pas que les gens ne bougent pas, c'est qu'il y a un ordre des gens qui sont en haut et des gens qui sont en bas. Oui. Et en fait, le maintien de l'ordre, c'est maintenir cet ordre, que ceux qui sont en haut restent en haut.
Il faut que les pauvres restent très pauvres et les riches très riches, comme dit Louis de Funès dans La folie des grandeurs.
Ah
Mais c'est ça, en plus. Hein.
Mais merci.
Politiquement, c'est ça.
Je crois qu'il en manque une. Recomptez, je crois qu'il en manque une. Le film, il est construit donc sur un dispositif qui est très particulier, avec des images qui ont été tournées à l'aide de smartphones, donc comme je le disais, et qui sont au format 9/16. Alors ça, c'est aussi très intéressant, si vous voulez, sur un aspect en fait un peu contemporain du cinéma, d'aller voir un film au cinéma et de voir ce format-là, un documentaire. Ça nous montre donc des images de violences policières qui ont été tournées par qui sont aussi analysées par d'autres interlocuteurs qui évoquent en fait ce que l'on voit sur les images et qui les analysent. Alors on retrouve pêle-mêle des gens qui font partie, par exemple, du regroupement Alliance de la police, des gens qui font partie d'un regroupement CGT aussi de la police.
Alors moi, ce que je trouve très intéressant, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais donc c'est un documentaire qui a l'air conventionnel, c'est-à-dire on voit des images et on voit ensuite des gens assis qui expliquent, sauf qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais ces interventions, c'est des dialogues. C'est-à-dire que les gens qui interviennent, les philosophes, les journalistes, les syndicalistes de la police et tout ça, ils ne parlent pas face caméra, ils parlent à quelqu'un d'autre.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va avoir un gars du syndicat de la police qui parle à un gilet jaune. Ouais. Et en fait, du coup, il y a une confrontation de point de vue quand même. On n'est pas, c'est pas un type tout seul face caméra qui vous explique. C'est un type qui est face à quelqu'un qui n'a pas la même pensée que lui, les mêmes opinions que lui, et ils discutent. Et il y a un vrai dialogue. Je pense que ça, c'est un dispositif qui est un petit peu différent et
inattendu. Ouais.
Ouais.
Et il y a un dialogue sur l'image aussi. Ils parlent de l'image qu'ils viennent de voir. Genre, ils disent, oui, mais là, il fait ça, mais il aurait peut-être pas dû faire ça. Oui, mais alors pourquoi il a fait ça? Parce que... Et du coup, il y a tout un dialogue qui se construit.
Exactement,
sur le pouvoir
ça qui est intéressant
cinéma, sur le pouvoir des images, sur la confrontation des images.
Et là,
l'interprétation
et la réappropriation des images, moi aussi.
Et la réappropriation des images.
C'est-à-dire qu'à un moment, on a une image où on voit... Donc, tout le long du film, on n'a que des images d'amateurs qui ont filmé avec leur téléphone portable. Et à un moment, on voit des flics qui sont derrière les images de caméras de vidéosurveillance. Qui ont, du coup, c'est un peu les mêmes images. Mais pendant un bon moment du film, ils parlent de la légitimité de la violence. Et ils parlent de Hannah Arendt et de le pouvoir, on l'entendait déjà dans l'extrait, le pouvoir à la légitimité de la violence. Et à un moment, on voit des images aussi de gilets jaunes violents. Et on se pose cette question de, est-ce qu'il y a aussi une récupération, une réappropriation de la légitimité de la violence ? C'est beaucoup évoqué dans le film. Le film, vraiment pour moi, parle de ça. Parle de l'État, est-il réellement légitime pour avoir la violence ? Est-ce qu'à un moment, les citoyens ne peuvent pas récupérer cette violence pour
exprimer leur mécontentement, mais alors, leur voilà, désaccord.
C'est très bien que tu soulèves ce point-là, parce qu'il y a une séquence en fait, dans le documentaire qui est, à mon sens, en tout cas personnellement, la séquence la plus importante justement sur cet aspect de violence-là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il y a une séquence qui se passe sur les Champs-Élysées à Paris, qui est devant le Fouquet's, où il y a, et on l'avait vu à la télé, des voltigeurs, c'est-à-dire des flics à moto, qui, à un moment donné, en fait, il y a un policier, ils sont à peu près 4-5, ils sont vulnérables, il y a la foule qui est déchaînée en face d'eux, qui leur balance des trucs, et il y a l'un des policiers, en fait, qui, si vous voulez, dans un élan d'autodéfense, de protection, en fait, de ses collègues, pointe son arme à feu sur la foule.
Ouais.
Et il y a une analyse, en fait, d'un sociologue qui s'appelle Jobard, je ne me rappelle pas son prénom, mais qui est vraiment très pertinente.
Pour moi, c'est l'intervenant le plus intéressant.
Ouais, c'est le plus intéressant.
Et il a justement, en fait, ce propos à ce moment-là, parce qu'il analyse, il décortique, en fait, la séquence, et il dit, regardez, au moment, en fait, où la police, elle est vulnérable, elle est à terre, ils sont en train de ramasser les motos, la foule, ils sont en surnombre, ils peuvent très bien les attraper, ils peuvent très bien les massacrer. Ils peuvent très bien les massacrer et ils n'ont pas, si vous voulez, en tout cas, la volonté de... Enfin, pas la volonté.
La sauvagerie.
Ils ont pas, voilà, il n'y a pas de sauvagerie. Oui, en fait, ce qui est vraiment intéressant là-dessus et sur l'analyse, sur le propos qu'il peut y avoir sur ces images-là, c'est que par rapport à la violence légitime de l'État, qui possède la violence ? Ça, c'est un jeu, si vous voulez, en fait, un peu de ping-pong. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la foule a la possibilité de devenir plus violente que la police. Elle a la possibilité de pouvoir massacrer des policiers. On n'encourage pas du tout, et je préfère être clair avec ça, on n'encourage pas du tout le massacre, que ce soit la police ou qui que ce soit d'autre. En revanche, si vous voulez, le truc, c'est que la foule, par contre, n'avance pas et laisse, si vous voulez, les policiers se remettre en sécurité, c'est-à-dire chevaucher leur moto, pouvoir s'éloigner, etc., etc. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, le monopole de la violence, légitimité de la violence, la foule la laisse à la police, à ceux qui ont autorité, ceux qui ont le pouvoir.
Inconsciemment,
en fait,
il la laisse à la police.
Ouais.
Ils sortent son flingue, ils sont pas en danger et ils s'en vont. Et dès qu'ils s'en vont, ils les poursuivent pour leur jeter
exactement.
Des trucs.
Exactement. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au moment où en fait la police a chevauché la moto, au moment où en fait elle commence à s'éloigner, à ce moment-là, il y a la foule qui commence à courir vers elle et à leur balancer tout ce qui leur passe sous la main. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ça qui est vraiment pertinent. C'est-à-dire que même si on imagine en fait un pouvoir, une possibilité du grand soir, une possibilité de la révolution, du renversement, si vous voulez, qu'il peut y avoir par rapport à l'État, par rapport à la condition, il y a quand même quelque chose, de manière collective, qui se rapproche, si vous voulez, d'une humanité et que quelque part, on a en face de nous des êtres humains et on est des êtres humains et que la barbarie, en fait, eh ben, elle n'est pas génétiquement...
Mais moi, j'irai plus loin. Je pense que la haine, elle n'est pas dirigée sur la police, réellement. À part peut-être pour certains qui font un amalgame avec les violences policières, qui bien sûr sont importantes, mais qui ne sont pas généralisées. Mais je pense que la haine des gilets jaunes ou de tout ce que tu veux, la haine de la contestation, elle est dirigée vers les gens qui sont en haut. Tu vois, c'est comme dans cet épisode de Rick et Morty où le mec il monte et il va tuer la bourgeoisie.
Ah, mais des références.
Non, mais c'est vrai. Il y a un épisode de Rick et Morty où ils arrivent sur une planète et ça s'appelle le jour du crime. C'est genre The Purge. American Nightmare, chaque année, ils font une soirée où ils s'entretuent. Et un jour, ils arrivent, ils se retrouvent dans un micmac, et la gamine, à la fin, elle leur dit « Non, mais en fait, c'est pas nous qui faisons la violence, c'est ceux d'en haut qui nous disent qu'il faut qu'on arrive à se réglementer, machin. » Et donc, il y va et il tue. Il massacre dans la façon, comment il s'appelle, Kingsman, il massacre tous les bourgeois, le clergé, enfin toute la haute bourgeoisie et tout l'État qui est en haut, terré dans sa demeure. Quoi.
Mais je crois que le propos de ce film, tu as raison, il est beaucoup plus subtil. Mais par contre, Donc c'est vrai, il y a dans la foule une humanité qui est inconsciente, hein, et qui fait qu'il ne les massacre pas. Par contre, il y a quand même beaucoup d'images dans le film de policiers qui laissent libre cours à la sauvagerie. C'est-à-dire que moi, j'avais oublié personnellement que ça avait été aussi violent, cette période de Gilets jaunes.
Ah bah oui, de voir les mains arrachées,
les mains arrachées. C'était horrible. Jérôme Rodriguez, un des leaders des Gilets jaunes, qui se fait tirer dessus en direct. C'est-à-dire que là, quasiment on est dans un truc de... pas de télé-réalité, mais en tout cas, oui, il y a un côté Real TV, le type est en train de filmer en montrant la manifestation, et on lui tire dans l'œil, et il se prend, et du coup, il fait tomber son téléphone, et le téléphone continue à filmer. Enfin, on est dans quelque chose, c'est Black Mirror, tu vois.
C'est effrayant. Ouais.
Et il y a le fameux tabassage dans le fast-food, là, dans un Burger King, où les flics ne s'arrêtent pas de tabasser des gens qui sont par terre. Il y a quelque chose dans ce film qui est très choquant.
Ça, moi,
je suis vraiment pas fan de cinéma politique. Je veux dire, j'y suis allé à reculons voir ce film. Je dis, ça va être du cinéma politique, du cinéma engagé. On va encore me dire ce que je dois penser. Dans les 5 premières minutes, on est tellement sous le choc de la violence à laquelle on assiste que c'est quelque chose. Enfin, c'est un film qui vous retourne quand même l'estomac parce que c'est... vous voyez une violence policière.
Ah, moi j'avais la haine en regardant les images contre
les flics. C'est ça, c'est ça. Voilà, et c'est exactement ça en fait qui est vraiment intéressant, si vous voulez, la prouesse de David Dufresne, c'est-à-dire le parti pris de David Dufresne, c'est de vous proposer en fait dans une salle de cinéma, parce que aller au cinéma, c'est pas comme voir un documentaire sur Netflix, c'est pas comme voir un documentaire sur un film sur sa télévision. À la télévision, on a la possibilité de zapper, on peut éteindre, on peut aller pisser, on peut aller bouffer des trucs. Quand on est au cinéma, on est face à l'écran. Il y a une espèce de contrat, si vous voulez, tacite,
qui vous oblige à regarder les
images. Et c'est là, en fait, où ça devient intéressant. C'est-à-dire que David Dufresne, ce qu'il propose à travers son documentaire, et c'est ce qui est le pilier du film, c'est-à-dire que c'est un dialogue, c'est une conversation entre les policiers, les sociologues, des caristes, des chauffeurs, des écrivains, peu importe, des historiens, et le spectateur. Et le spectateur, il a le choix de regarder les images ou de ne pas regarder les images. Mais en revanche, il a l'obligation de rester dans la salle. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce n'est pas comme quand on regarde ces images qui ont été filmées avec des smartphones, qu'on retrouve sur Instagram, qu'on retrouve sur Facebook, qui sont parfois, si vous voulez, réorientées selon en fait, les profils.
Mais condensées comme ça, on les a
rarement vu. Sur lesquelles on peut mettre pause, sur lesquelles on les voit dans un tout petit écran qui fait 4 cm sur 5.
Ouais, on les a.
On n'est pas impacté de la même manière que de les prendre dans un truc de 4 mètres par 3.
Au niveau de l'image, le film amène aussi quelque chose, c'est-à-dire déjà probablement le retour des pixels. On bouffe de la 4K, on a des télés 4K et tout, moi je regarde que des films en 1080 et tout. On a beaucoup d'images ultra pixelisées et pourtant il se passe énormément de choses dans l'image, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dérangé par toute cette pixelisation. Un retour des pixels. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, je me suis un peu perdu, c'est l'idée de la réappropriation des images. C'est-à-dire que quand on voit des flics qui regardent à travers... les images de vidéosurveillance, mais aujourd'hui les citoyens font de la vidéosurveillance. C'est-à-dire que ce film, ça n'est que de la vidéosurveillance citoyenne. Des citoyens qui ont des caméras et qui filment ce qui se passe dans la rue, mais du coup, pas pour faire de la répression, pour faire de la dénonciation, les crimes policiers. Et il y a un retournement, c'est-à-dire
que... La lucarne sur le monde.
Ils récupèrent, la légitimité de la violence, ils la prennent à l'État, mais ils prennent aussi la légitimité des images, le droit à faire de l'image. Ouais. Et je crois que c'est ce qu'apporte ce film, c'est quand même ça. Ça montre que les citoyens ont récupéré le droit de faire de l'image. Enfin, pas le droit, la possibilité, parce que la technologie donne la possibilité de faire de l'image et que finalement, on n'a pas que des images de vidéosurveillance avec des gens violents et qui valideraient ce que fait la police. Là, on a des images qui ne valident pas, qui montrent que la police abuse de façon incroyable de son pouvoir.
Parfois la police cache ses RIO, tu le vois documentaire, tu le vois.
Mais quasiment tous, ils cachent leurs numéros, ils cachent leurs plaques, les plaques sont scotchées.
Il y a cette séquence qui est hallucinante quand même.
Des voltigeurs.
Avec les voltigeurs qui ont gaffé en fait et les plaques minéralogiques des motos. C'est-à-dire que si vous voulez, en fait, à un moment, la police qui est là pour maintenir l'ordre, en définitive, les ordres, je pense qu'ils reçoivent quelque part, ceux-là. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils s'anonymisent. Alors là, aujourd'hui, ils n'ont plus de responsabilité.
Ils ressemblent à une milice, en fait. Ça devient une milice fasciste.
Mais ça devient une milice. Alors attendez, parce qu'aujourd'hui, et donc c'est là, parce qu'on avait préparé l'émission avant, on avait un peu débattu un peu déjà de tout ça préalablement. Ouais. Mais aujourd'hui, quand même, on ne va pas faire une émission politique sur témoins oculaires, mais quand même, on a le droit, on s'en fout, on en parle. Gérald Darmanin, qui aujourd'hui est ministre de l'Intérieur, si je ne me trompe pas, c'est ça, qui est en discussion, si vous voulez, pour pouvoir accorder le droit aux chaînes de télévision
de flouter le visage des policiers dans les images qui vont être reproduites et diffusées dans les télévisions.
De toute façon, ça n'a pas changé grand-chose avec les télévisions. C'est pas... On très peu si. Documenté ces violences policières. Elle les documente très peu, de toute façon.
Et surtout, non, elle
les
documente très peu.
Mais si tu veux, si tu veux, en fait, non.
Elles ont un rôle de propagande. Enfin.
Oui.
Si tu veux, ce qui est important par rapport à ça, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'identification. À partir du moment en fait, où ces gens-là ont le visage qui est flouté, ils ne sont plus reconnaissables, ça veut dire que derrière, ça entraîne aussi la non-obligation de porter son numéro de matricule sur soi.
Mais oui, pas de Rio.
Et
pas
ça,
de...
en fait, apporte, si vous voulez, la possibilité d'anonymiser en fait, la police et la sécurité. Je ne donne pas d'avis dessus. Je vous laisse chacun, si vous voulez, penser ce que vous voulez par rapport à ça.
Pour moi, c'est une milice fasciste. Enfin, on est dans l'ordre de la...
En revanche,
le totalitarisme, en tout cas dans sa représentation la plus...
C'est comme si qu'on nous interdisait, par exemple, de sortir de chez nous tous les soirs. Quoi.
Voilà, qu'on n'avait pas le droit, par exemple, à 21h d'aller boire un verre.
Et qu'on fermerait les bars.
On dérive,
les bars. Et qu'on serait obligé de regarder la Ligue des Champions à 6 à la maison.
Exactement,
sur le canapé, maximum.
Parlons des vrais sujets. Qu'on puisse pas aller dans les bars regarder la Ligue des Champions, si ça, c'est pas la preuve que l'OM dérange quand même.
Et que, alors, et que ça tient aussi la culture.
Bon, trêve de plaisanterie, on va...
On a plus le droit de faire des pièces de théâtre. Je veux dire, on nous dit... Castex nous dit, ouais, machin, il faut que les gens puissent travailler. Mais les comédiens, ils travaillent quand ils vont sur scène. Enfin, moi, je dis ça parce que ça me concerne, je suis comédien. Bon, en ce moment, je ne travaille pas trop. Mais on travaille quand on va sur scène. Nous, à 20h, 21h, 22h, on ne s'amuse pas. On va apporter du bonheur aux gens. Mais nous, on travaille. Donc, on est comme des gens qui vont à l'usine.
Foot.
On est comme des gens qui vont dans des travaux de nuit, comme veilleurs de nuit ou tout ça. Enfin, je veux dire, nous aussi, on devrait avoir une attestation qui nous permette de dire... Eh ben voyez, je travaillais, je peux pas. Et donc du coup, ça permettrait en plus aux gens d'avoir une attestation qui dirait ah mais je peux pas, j'étais au théâtre, vous voyez,
c'est
j'étais
dans
au
quel
cinéma,
film,
voyez, je voyais ou à la radio, ou à la musique, ou à la danse, l'opéra, je sais pas, tu vois.
Dans un monde juste,
ça devrait être comme ça. Non, pardon, je suis révolté, ça m'arrive pas souvent, mais là pour le coup c'est. Non,
alors moi je tenais, merci Guylain, en tout cas on entend très bien ton cri, ton cri du cœur. Juste, je voulais apporter une petite information comme ça, si vous voulez, un peu symptomatique de la situation dans laquelle on se trouve, parce que tu parles de la culture, tu parles du travail des comédiens et voilà, on ferme les cinémas, on ferme les théâtres, on ferme les opéras, on ferme tous ces lieux, si vous voulez, culturels.
Et ben tu vois, je vais te donner juste une petite anecdote après.
Juste pour terminer, je suis allé pour préparer l'émission à la bibliothèque L'Alcazar, et donc il y a à Marseille évidemment. Et quand j'arrive là-bas, en fait, il y a une section Beaux-Arts, il y a une section sur les livres, les documents en fait sur le cinéma, sur la peinture, sur enfin voilà, toutes sortes, si vous voulez, de disciplines artistiques. Et c'était le seul secteur de l'étage qui était fermé, donc avec des chaises, ils avaient mis de la rubalise tout autour. Et je suis allé poser la question à quelqu'un qui travaillait là. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'on n'avait pas accès, justement, parce que moi je prépare l'émission en allant à la bibliothèque, parce que bah, y a des ouvrages, il y a des magazines donc, sur lesquels je m'informe. Et on m'a dit que, bah, en fait, par rapport à des questions de sécurité, il fallait fermer en fait ce compartiment de la bibliothèque. Donc c'est très symptomatique, si vous voulez, de la considération en fait des volontés politiques. Face à la culture, la culture en fait n'est pas indispensable. La culture, je pense, par rapport en fait à ce que les politiques peuvent envisager, quelque chose qui est de l'ordre en fait d'une valeur économique. Ça permet de pouvoir gagner de l'argent, certainement, de faire tourner, si vous voulez, des espèces de principes, de subventions à des théâtres,
du tourisme à Avignon,
ça,
voilà. Des choses comme ça.
On favorise pas la créativité, on l'étouffe. On l'a tait. Aujourd'hui, j'ai encore vu l'information. Alors peut-être que certains d'entre vous ont vu qu'il y avait un artiste italien qui a apparu en fait lors d'une exposition, avait justement lui en fait fait des captures d'écran de visages d'agents de police qu'il avait mis en fait comme ça, qu'il avait exposé par dizaines sur un mur, sur une toile. Aujourd'hui, les autorités sont venues recouvrir en fait cette œuvre d'art là. Voilà. Il y a des questions à se poser, chacun pensera ce qu'il veut. Nous, on est obligé maintenant, il est 9h44, de rendre l'antenne. Un dernier mot, s'il vous plaît, en conclusion.
Sur le film, sur un pays qui se tient sage, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche très bien dans le film, c'est les silences. C'est-à-dire que c'est un film qui est porté par des silences assez lourds. On voit des scènes de violence et c'est des silences qui laissent la place à l'émotion
à surgir.
Par contre, petit bémol que je mets moi sur la narration, c'est un film qui manque de narration. À un moment, on est sur quelque chose de répétitif, on voit des images, on voit des intervenants qui disent quand même souvent la même chose. Alors, on peut quand même un peu tirer notre chapeau aux deux syndicalistes policiers qui interviennent dans le film, puisqu'à la fin, on nous explique que la préfecture n'a pas voulu parler, que tous les... Que le,
le gouvernement n'a pas voulu parler. En fait, toutes les officines policières ont refusé de s'exprimer dans le film. Il y a quand même deux flics qui viennent, bon, même s'ils sont hyper corporate et qui disent « Non, mais on n'a rien fait, c'était pas de notre faute », ils sont quand même venus parler. Et voilà, ce manque de narration, ça m'ennuie un peu. Ce manque de, disons, de second degré, moi, je... Dans le cinéma politique, je suis quelqu'un qui aime beaucoup Pierre Carl, le travail de Pierre Carl, que si vous ne le connaissez pas, je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'il a fait. Ça fait quelques années qu'on ne l'a plus vu, mais c'est quelqu'un qui a fait des films passionnants.
Les Nouveaux Chiens de Garde, il est super.
Dans Les Nouveaux Chiens de Garde, c'est Serge Halimi.
Mais il n'y a pas aussi Pierre Carl.
Pierre Carl avait fait Pas vu, pas pris. Pierre Carl, c'est quelqu'un de passionnant qui m'a appris cette phrase.
Attention, danger, travail aussi.
Attention, danger, travail, un de ses meilleurs films. Pas vu, pas pris. Et qui avait... N'oubliez pas de mordre la main qui vous nourrit. Il avait dit ça... début des années 2000, enfin, c'est quelqu'un de passionnant qui a un vrai point de vue, un vrai second degré sur le cinéma politique. Mais le film de David Dufresne, c'est quelque chose à voir. Et il raconte quand même un morceau d'histoire de France qu'on oublie. On le prend pas pour de l'histoire parce que comme on bouffe tellement d'images et tellement de storytelling de l'information que ce qui s'est passé il y a un an, on l'a quasiment oublié. Maintenant, on est dans du storytelling Covid, on va parler que de ça.
Ouais,
mais en fait, ce qui s'est passé avec ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un morceau d'histoire de France.
Tout à fait, ouais. La révolution. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'était juste conclure avec une phrase de Churchill en 1941, donc on a voulu supprimer la culture, que les gens n'aillent plus au théâtre, n'aillent plus au cinéma, tout ça, qu'il n'y ait plus de subventions. Et Churchill a répondu cette belle phrase, il a dit « Mais alors pourquoi nous battons-nous ? » Voilà.
Voilà. Eh bien, on se quittera sur cette citation de Winston Churchill. On vous remercie en tout cas pour votre attention. Le rendez-vous de Témoins Oculaires cette année, c'est tous les premiers vendredis du mois de 20h à 21h30, si on n'est pas en retard. Et quoi qu'il en soit, on essaiera de ne pas l'être. Vous pouvez retrouver Témoins Oculaires en podcast. Toutes les informations sont sur la page Facebook témoinsoculaires.fm au pluriel. Témoins avec un S, oculaires avec un S. Je vous invite à nous suivre, à partager aussi ce que vous entendez. Si vous avez des réactions, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, la page Facebook reste un champ de discussion et de dialogue entre les auditeurs et les gens qui s'occupent de cette émission. Vous retrouverez les informations, les playlists, les extraits que l'on a pu mettre sur les premières émissions aussi. On vous remercie beaucoup pour votre attention. On va se quitter avec un morceau qui est Burning and Looting de Bob Marley, qui apparaissait donc en ouverture du film La Haine de Mathieu Kassovitz. Je vous remercie une dernière fois. Merci Daniel, merci Guilin, merci Mathieu à la technique.
Merci Mathieu.
Tu nous as régalé et on se retrouve nous normalement dans 15 jours si tout va bien. Respectez les règles et puis à 21h, enfin ce soir à minuit il n'y a plus rien et puis à 21h on va voir comment ça va se passer. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous.
Vive le cinéma!